je suis David Nicolas, start-upper, sportif et père de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super-pouvoirs? Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme? C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche! Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspirations. J'ai souvent parlé de ce bouquetin au regard pétillant de malice qui m'a emmené vivre des émotions au-delà de la moyenne à 4800 mètres d'altitude. Mais Serge n'est pas seulement le guide qui m'a fait découvrir l'alpinisme. C'est surtout un passionné, un vrai de vrai, qui a passé sa vie à poursuivre ses rêves, aussi fou soit-il, pour ne jamais rien regretter. Courir un marathon par jour pendant 5 ans à travers les 5 continents, perfusé au Coca-Cola, traverser l'Atlantique à la rame en 72 jours, escalader des parois en free solo et aimer avec la même intensité les femmes de sa vie. Chaque jour, il cultive cette flamme brûlante qu'il partage avec une générosité infinie à tous ceux qu'il croise sur sa route. À 68 ans, elle est toujours aussi brillante et il en lègue quelques étincelles dans cet épisode vibrant pour nous donner le courage d'oser. Belle écoute! Allez, c'est parti. Bonjour mon Serge.
Bonjour mon David.
C'est un petit peu drôle de dire bonjour alors qu'on a passé la matinée ensemble à faire de l'escalade. Je te remercie pour cette belle découverte qui m'a permis encore une fois d'élargir mes zones de confort. Tu sais, t'es déjà un petit peu connu sur ce podcast parce que j'ai parlé à de nombreuses reprises de nos expériences en haute montagne, c'est notamment gentil. Du Mont Blanc, du Brighthorn, de ces émotions un petit peu au-dessus de la moyenne comme tu aimes à les appeler. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué, qui ont participé à me construire, et que ce soit tes yeux pétillants ou ta forme de bouquetin m'inspire et m'impressionne. Donc je suis vraiment très flatté, très heureux de pouvoir te recevoir pour discuter un petit peu de ta vie, de tes vies, parce qu'en réalité t'en as vécu de nombreuses. Et je trouve qu'en préambule, le fait de passer ces quelques moments sur la roche ce matin ensemble, c'était vraiment génial. C'est assez marrant comme tu vois, à certains moments, je pensais que j'y arriverais pas à passer, et que en prenant le temps de se poser, de réfléchir, eh bien, j'arrivais à trouver des solutions à passer, et puis arriver en haut, et la fierté que tu ressens quand tu dépasses justement tes barrières mentales, tes limites mentales, est vraiment une sensation qui me semble extrêmement, extrêmement belle et importante. Et toi, par le passé, t'as fait beaucoup d'escalade et notamment des voies en solo sans être assuré. Pourquoi est-ce que tu avais envie, besoin de mettre en danger, entre guillemets, de supprimer ce petit filin qui te raccorde à la vie et qui pourrait réparer tes erreurs?
D'abord, merci pour ce petit temps partagé ce matin sur les cailloux. Effectivement, c'était tout à fait sympathique de joindre l'utile à l'agréable et pas simplement se voir pour bouffer un morceau, mais aussi pour partager quelques émotions. Et pour revenir à cette histoire de solitaire que tu parles, oui, effectivement, pendant 10 ans de ma vie, j'ai eu la chance et le privilège de faire d'innombrables ascensions, que ce soit du rocher, de la neige, de la glace ou des hautes montagnes du monde, en solitaire, sans corde, sans rien, sans aucun assurage. Et au contraire de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu cherchais peut-être ce danger ou ce risque? En fait, je me confrontais pas à un risque, en tout cas pas mortel. Je me confrontais à l'intensité de la vie, en fait, quand je suis parti dans les solitaires. J'avais une conception tout à fait normal, je pense, et saine, c'est-à-dire que quand je pars, que je sois en solitaire, que je sois avec un client ou bien que je sois avec un ami, pour moi, il est clair à 100% que je reviendrai vivant et en bonne santé à la maison. C'est la condition sine qua non d'être là aujourd'hui pour te parler. Et puis, je pense que pour moi, c'est important. Il n'y a aucun challenge au monde et aucune prise de risque qui vaut la peine de prendre le risque de mourir, je veux dire. D'accepter d'une part de risque, ça fait partie inhérente à n'importe quel projet, surtout s'il est un peu audacieux ou bien en nature. Avec la grande nature, on ne sécurise pas tout. Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'est 100% sûr que quand je pars, même si je prends un objectif extrême ou risqué, de revenir en bonne santé à la maison. C'est important de le dire. Parce qu'on est au XXIe siècle et on voit une nouvelle génération, en tout cas dans le monde de l'alpinisme, qui parfois peut-être me fait un peu peur, ou bien alors je vieillis, je ne sais pas, mais je vois une catégorie de jeunes qui se disent j'aime mieux la qualité et l'intensité de la vie à la quantité des années qui passent, alors tant pis si je dois mourir jeune. Mais je trouve que c'est dommage d'être très fort à 15 ans, d'être doué à 20 ans, d'être surdoué à 25 ans et de mourir avant 30 ans. Je trouve qu'il n'y a pas un seul challenge qui vaut la peine de prendre ce risque mortel, la vie est tellement belle. Et aujourd'hui j'ai 68 ans et la vie est tellement belle que j'aimerais bien qu'elle continue encore quelques années. Si la mort arrive, ça, je l'accepte aussi, ça fait partie du bagage, ça fait partie du risque de la vie, c'est de mourir un jour, mais si on me donne encore quelques années, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais regretté. Donc dans mes solitaires à l'époque, je calculais très bien mes objectifs et je prenais peut-être chaque année un peu plus dur, un peu plus engagé, un peu plus risqué, qui fait d'ailleurs que ça m'a permis de me regarder dans un miroir un jour et de me dire il faut que j'arrive à arrêter. Parce que peut-être un jour, pris par la passion débordante, je fais l'erreur qu'il ne faut pas faire et je serai mort. Donc peut-être. Merci la vie, j'ai réussi à prendre cette décision un jour. Ça ne s'est pas fait tout seul, hein. C'était pour l'amour d'une femme. J'avais une femme avec qui je vivais, qui avait extrêmement peur de me voir partir en solitaire. Et je me suis dit, eh bien, je vais le prendre comme excuse, c'est un bon prétexte très valable. Alors je lui ai dit, par amour pour toi, j'arrête mes solitaires. Puis en fait, elle a adoré ça, parce que d'abord, c'était une preuve d'amour, mais c'était aussi pour moi une excuse très valable et sensée et intelligente pour me permettre d'arrêter. Et le fait d'avoir arrêté les solitaires m'a en tout cas pas rendu triste, m'a simplement fait voir que dans la vie, il faut faire des choix. Et puis il arrive un moment, on a été au bout d'une certaine tranche de vie qui nous a amené beaucoup d'émotions. Et puis il faut passer à autre chose. Et j'ai passé à autre chose sans jamais regretter mes solitaires.
Serge, ce grand romantique, les femmes ont une place particulière dans ta vie. Et d'ailleurs, j'ai déjà raconté cette histoire fabuleuse qui m'a énormément marqué lorsque nous avons fait le Mont Blanc ensemble l'année dernière. En redescendant du Mont Blanc, on a été manger au restaurant, dans le restaurant où travaillait Isabelle, ta compagne actuelle. Tu l'as prise dans tes bras, tu l'as fait tournoyer, tu l'as embrassée avec une fougue et une intensité dans le regard que j'ai rarement vu, même chez des jeunes étudiants de 20 ans qui sont à leurs premières amours. Donc, je fais un petit peu le lien avec ce que tu disais sur le fait de rechercher l'intensité de la vie plus que le risque. Est-ce que malgré tout, tu penses que le fait de se confronter à des émotions un peu au-delà de la moyenne, et puis potentiellement dangereuses, mais aussi intenses, te permettent quelque part d'être beaucoup plus connecté justement à la préciosité du temps, des gens, des personnes que tu aimes? Est-ce que c'est... Ou bien ça a toujours été inné chez toi et t'as toujours eu cette passion, cette fougue, cette folie amoureuse?
Merci pour tous les compliments que tu me donnes ici, ça fait plaisir à entendre, parce que je n'ai pas embrassé Isabelle exprès pour ça, mais enfin ça fait 16 ans qu'on est ensemble, et effectivement on a la chance de s'être bien trouvés. Je crois qu'on a amené le meilleur et le pire de nos vies passées, antérieures, elle de son côté ou moi du mien, pour essayer de construire quelque chose qui n'est pas plus durable que chez les autres, mais qui est peut-être un peu plus intense et un peu... est basé sur des émotions et des expériences et non pas forcément sur des critères judéo-chrétiens de fidélité, de jalousie, de je sais pas tout quoi, qui nous habitent tous, moi y compris. Mais enfin, on a fait un peu table rase de tout ça, puis si on est ensemble, c'est parce qu'on a envie de vivre de belles émotions et de partager le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Puis apparemment, ça réussit, vu qu'il faut croire que ça t'avait frappé ce jour-là. Mais je pense que j'espère que c'est encore la même chose aujourd'hui. Je dirais que la passion de la vie qui m'anime, je la dois en bonne partie grâce à un papa et une maman qui ont eu leurs défauts et leurs qualités. Je ne crois pas qu'ils aient eu que des qualités. J'avais des parents avec quelques problèmes assez importants dans mon jeune âge. Mais ils ont eu cette qualité extraordinaire de m'apporter la reconnaissance d'être en vie et de savoir que la qualité de la vie était beaucoup plus importante de collectionner des émotions et des expériences que de collectionner du patrimoine ou bien une carrière professionnelle et financière. Dieu sait si c'est important l'argent, mais je dis toujours, moi je possède rien du tout, mais je suis extrêmement riche, quoi. J'ai une vie de qualité émotionnelle, je pense sans vantardise aucune, de dire au-dessus de la moyenne, où je peux me permettre de regarder derrière moi. J'ai 68 ans maintenant et j'ai pas raté un seul jour, j'ai rien lâché, j'ai vécu intensément tout ce que j'avais à vivre. Le dernier tout petit exemple en date, il n'y a pas besoin de tenir des grosses théories, tu m'as téléphoné par amitié pour venir me dire bonjour et puis qu'on mange un morceau, j'ai trouvé super, j'ai dit ben, et pourquoi pas si tu venais pour la journée et puis on essayait d'en faire quelque chose. Donc on a fait de l'escalade ce matin qui apparemment t'a apporté quelques émotions. La vie c'est pas plus compliqué que ça, faut rien lâcher, faut rien laisser tomber, faut pas vivre au stress mais faut la vivre pleinement et complètement. de façon à rien regretter. Et j'ai eu cette chance-là grâce à mes parents qui m'ont enseigné ce genre de choses depuis tout petit. Déjà, quand j'avais 15 ans, je me rappelle avoir dit à mes élèves au collège à Sion, où j'étais en Valais, là en Suisse, et je disais, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir de l'eau dans un robinet, puis de pouvoir manger, quoi. Je veux dire, c'est un privilège, et c'est assez rare à 15 ans de faire cette constatation-là, mais moi je l'avais faite, et tout au long de ma vie, ça m'est resté. Je suis toujours content de ce que j'ai, et puis tant pis pour ce que j'ai pas, quoi.
C'est une très belle philosophie. Et puis tu vois, sur ce podcast, j'ai reçu des médecins, des scientifiques, des nutritionnistes, etc. Et donc j'ai tout un tas de petits hacks, de petites perles de sagesse qui permettent justement d'améliorer la vitalité, d'augmenter la longévité, d'exprimer pleinement notre potentiel. Mais en réalité, tout ça n'a de sens que si c'est pour justement vivre des choses, tu vois, vivre cette vie. Et en réalité, si tu vis des émotions intenses, tes journées comptent double presque. Tu peux vivre 70 ans avec des journées qui comptent double, ça équivaut à une vie de 140 ans. Et en comparaison, une autre personne qui aurait peut-être réussi à vivre 80 ou 90 ans, mais sans jamais rien avoir vécu d'intéressant au cours de son existence, et qui, lorsqu'elle regarde en arrière ou se plonge dans ses souvenirs, n'a rien à raconter à ses petits-enfants. Et c'est extrêmement triste, pardon. Et puis c'est absolument pas ton cas, puisque toi, on a l'impression que tu as vécu 3 ou 4 vies en une. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture, et je te disais, j'ai la sensation que parfois les gens sont embarqués sur l'autoroute, leur cœur leur dicte quelque chose, mais leur cerveau leur demande autre chose, et les bloque, les brime par le poids de leurs responsabilités, de la peur de l'avenir, de la peur de prendre des risques. Et quelque part, ils se privent justement de cette passion, de cette intensité de la vie, de toutes les choses merveilleuses et incroyables qu'il nous est donné de vivre. Et tout ça est un petit peu caché sous des plaisirs simples comme regarder la télé, s'échouer sur le canapé, et puis peut-être accumuler des richesses parce que justement elles nous rassurent. Toi, à l'inverse, t'as toujours vécu avec énormément de simplicité, très peu de choses, très peu d'objets. Tu me disais que t'es même pas propriétaire de ta maison, alors que le modèle qu'on nous vend en général dans nos sociétés, c'est et un crédit, des enfants et puis un coupé cabriolet. Alors, tu me diras exactement à quel âge c'est, mais tu as vécu une aventure extraordinaire qui est de faire le tour du monde en courant. Il n'existe pas de dépouillement plus important que celui-là. Voyager, traverser le monde, faire 45 000 km simplement par la force de ses jambes, c'est quelque chose d'incroyable. En même temps, ça te permet de comprendre que le bonheur, il réside plus dans ce que tu partages avec les gens, dans ce que tu découvres et que tu vois avec tes yeux, que dans le confort matériel ou ce que tu peux acquérir au cours de ta vie.
Évidemment, on parle souvent de ce tour du monde parce que c'est quelque chose avec des chiffres assez importants ou impressionnants qui plaisent à écouter aux gens, mais je crois qu'il faut le voir dans un contexte général des choses. J'ai effectivement un peu ce sentiment d'avoir eu la chance de faire plusieurs vies en une seule. Mais parce qu'il n'y a pas que le tour du monde, c'est peut-être le highlight d'une vie, c'est sûr, on ne peut pas faire deux fois ça dans une vie. Mais je dirais que c'est toute une succession de choses qui a commencé déjà tout petit avec mes parents, et je reviens de nouveau là-dessus, parce qu'on sait combien les premières années de la vie, c'est important, qui conditionne le reste. Alors, j'étais pas le meilleur à l'école, j'étais un peu le canaillou de service, j'étais un peu celui qui déstabilisait l'ordre en place. Et puis maintenant, avec la vie que j'ai menée, on comprend un peu pourquoi. C'était pas toujours facile pour mes parents, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris la valeur de prendre des décisions et de payer le prix de ses choix. Et j'aime bien dire ça quand je suis intervenant en entreprise dans des journées de formation continue, je développe un peu ce sujet-là. J'avais par exemple une maman qui, bien souvent quand j'étais petit, et je m'en rappelle très bien, j'ai un frère, donc c'était la même chose pour mon frère ou pour moi. En fait, elle ne nous disait pas ce qu'il fallait faire, elle nous disait... C'est toi qui vas prendre la décision face à telle situation qui se présente. Si tu dis oui, il va se passer ça, ça, ça. Si tu dis non, probablement il va se passer ça, ça, ça. Mais c'est toi qui décides. Par contre, une fois que tu as décidé oui ou bien que tu as décidé non, tu vas jusqu'au bout. Et je vous garantis que quand on est gamin, c'est pas si facile de prendre une décision. Est-ce qu'on a envie d'aller au lac pour se baigner? Oui, j'ai envie d'y aller. Puis après, quand on arrive au bord du lac, il fait très froid, on n'a plus envie de se baigner. Je me dis, maintenant tu as décidé d'aller baigner, maintenant tu vas te baigner. Enfin, ce genre d'exemple ridicule peut-être, mais quand on est gamin, ça prend son sens. Et j'ai des souvenirs comme ça, mais ça m'a servi toute ma vie. Souvent, j'ai pris un peu de temps de réflexion, j'ai pris une décision, j'ai pris des décisions qui ont changé diamétralement le cours de ma vie plusieurs fois, et je m'y suis tenu. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai réussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'aurais tendance un peu à dire que C'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est qu'une fois que vous avez pris une décision, vous vous y tenez, malgré tout ce que vous allez pouvoir entendre. Quand vous décidez de partir courir les routes du monde et que vous dites à votre entourage, même proches qui vous connaissent, je vais partir pendant des années courir les routes du monde à pied et puis camper tous les soirs avec une femme sur une moto et une petite remorque, il n'y a personne qui mettra un sou rouge, il y a tout le monde qui dit « de toute façon c'est impossible ». Et ils ont peut-être raison. C'est impossible pour la fiabilité du couple. Comment est-ce que vous allez vivre 24 heures sur 24 l'un sur l'autre? Comment est-ce que tu vas courir 40 à 45 km 5 jours par semaine, un marathon par jour? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver ta place de camp? Comment tu vas faire pour ton... Comment? Donc si on réfléchit raisonnablement, on ne part pas. Et pourtant, on a pris la décision. C'est moi qui ai pris la décision, mais ma femme était complètement adhérente à cette idée-là que j'avais proposée. On a décidé de changer notre vie, on se démerdera pour trouver les moyens de réussir, et puis finalement, ben, on a réussi. Et ça, c'est extraordinaire. On a passé 10 ans, hein, c'est pas seulement un tour du monde. En fait, on a passé 10 ans de notre vie à faire que courir les routes du monde. Je le schématise un petit peu parce que beaucoup de gens ne le savent pas, parce que j'en ai pas toujours fait parler. C'était une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. J'avais un certain plan médiatique, radio, télévision, journaux dans notre petite Suisse romande, mais ça couvre 2 millions de personnes. Donc on ne devient pas célèbre avec ça. C'est même pas un pays comme la France, c'est tout petit, il y a 2 millions de personnes. Donc on avait décidé de changer notre vie. Donc à l'âge de 40 ans, on a pris le risque de tout perdre, sans même savoir si on allait gagner 1 mètre. On a tout vendu, appartement, voiture, télévision, largué le 50% de nos assurances. En Suisse, c'est pas une démarche très courante à 40 ans avec 2 enfants à charge d'une première union, où j'ai assumé les pensions. Ils sont venus 19 fois me rencontrer aux 4 coins du monde. Donc je crois que ça s'est très bien vécu et j'ai une excellente relation avec mes enfants. Et en fait, on a décidé de courir les routes du monde, de découvrir le monde au rythme de la course à pied et du vélo, du scooter, de la moto. Il y a des choses qui ont évolué avec les années. Donc je suis parti de Gibraltar, Espagne, et j'ai couru jusqu'au Cap Nord, au nord de la Norvège. 12 pays d'Europe, 10 400 km. Personne n'en a jamais parlé, parce que j'en ai pas fait parler. J'ai fait 10 000 km d'Europe uniquement pour savoir si j'étais capable de courir des grandes distances. Donc j'avais ouvert grand les yeux, puis je rêvais grand, quoi. Et après ça, on est parti pour une très grande aventure où j'ai couru la plus longue route du monde inscrite sur le livre des records du Guinness Book. On est parti d'Ushuaia, terre de feu, Patagonie, Argentine, proche du Cap Horn, où j'ai couru l'intégralité de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique, les États-Unis, le Canada et l'Alaska. 3 ans non-stop sans jamais rentrer entre deux, 24 115 km, qui a valu la publication de notre premier livre. Et ensuite, on est parti pour cette fabuleuse aventure dont tu viens de suggérer l'histoire, le tour du monde en course à pied. À 12 km/h, 5 ans, les 5 continents. 5 ans et 3 mois, 40 912 km de course à pied et de moto-remorque pour Nicole. Et on a permis de récolter plus de 450 000 euros pour des enfants. Alors c'est une somme qui est très importante, on a fait de belles choses, on a donné quelques chances à quelques enfants qui n'ont pas la chance que j'ai eue moi. Mais finalement, c'est pas une somme extraordinaire comparée à l'investissement qu'on y a mis sur 5 ans d'énergie et de transpiration. Mais je rappelle qu'on était à une période où les réseaux sociaux n'existaient pas. Je pense que j'ai pas de regrets dans ma vie, mais si j'en avais un tout petit, il est quand même un petit peu quelque part au fond de mon cœur. C'est que j'ai fait ces grandes aventures à la démesure des temps, 20 ans trop vite. Si on refaisait maintenant un tour du monde avec les réseaux sociaux et les images et les vidéos et les GoPro et j'en passe, je pense qu'on aurait des centaines de milliers de followers et on récolterait des millions pour les enfants. Donc voilà, ça serait encore plus, peut-être, je sais pas si ça serait plus grandiose, mais ça serait plus efficace.
Où est-ce que tu as trouvé justement le courage de croire en ce rêve, alors même que tout te disait que c'était impossible, que ce soit tes proches, que ce soit l'antériorité, les gens qui, les préparateurs physiques, aujourd'hui n'importe qui te dirait que de courir un marathon par jour tous les jours pendant 5 ans, c'est la seule façon et la meilleure façon de te détruire le corps. Comment est-ce que c'est tes expériences passées qui t'ont permis petit à petit d'en arriver à cet aboutissement? Comment est-ce que tu as trouvé ce courage?
Je crois d'abord qu'il faut redéfinir le mot du mot impossible. J'ai tellement souvent entendu c'est impossible dans plein de challenges. Au jour d'aujourd'hui, on voit toutes les barrières qui explosent. Et il y a tellement de jeunes fantastiques et passionnés qui réussissent des challenges qui paraissaient impossibles. Alors moi, j'ai un peu caricaturé tout ça. Je dis toujours, tout est impossible tant que personne n'a essayé de le rendre possible. C'est ce qui s'est passé avec mes tours du monde, c'était impossible, et finalement on s'aperçoit que c'était possible. Pas parce qu'on est plus fort que quelqu'un d'autre, je pense que quand on réussit des grands challenges, c'est plutôt le contraire. En tout cas, dans ce qui me concerne, je peux parler peut-être que pour moi, si on a réussi, c'est pas parce que je suis plus fort que quelqu'un d'autre, c'est peut-être le contraire. J'ai fait acte d'humilité, je me suis dit, je sais pas si c'est possible, mais je sais que j'ai des possibilités en moi pour que chaque jour je doive réussir à le rendre possible. Donc si chaque jour je suffis à peine et chaque jour je cours un marathon et que je me donne les moyens de récupérer ce qu'il faut pour que le lendemain je puisse recommencer, si on peut faire ça une semaine, on peut le faire un mois, si on peut le faire un mois, on peut le faire une année, si on peut le faire une année, on peut le faire 10 ans. Et moi je l'ai fait à peu près une dizaine d'années, on peut peut-être le faire 50 ans aussi.
Et d'un point de vue concret, déjà, pendant 40 ans avant, t'avais déjà travaillé toute ta construction physique, ton endurance cardiovasculaire, le renforcement de tes tendons, de tes muscles, etc. Au vu de réaliser ce challenge, même si tu savais pas encore que tu le ferais, est-ce que toute ta vie t'a préparé à ce fait d'armes ?
Je pense que c'est aussi une évidence, c'est que si on réussit des grands rêves tels que je les ai eus moi ou qu'on les a eus avec mon ex-femme, je pense que c'est aussi parce que on s'entraîne. C'est pas simplement un samedi matin, on décide au bistrot du coin ou bien un peu bourré par 3 bières, je vais faire un challenge. C'est pas comme ça que ça va réussir. Quand on décide, on se donne les moyens de réussir. Et c'est clair que j'avais un passé vécu de sportif et de nature qui m'a permis de probablement être en équilibre de ce qu'on a fait. Toute la réussite se repose dans l'équilibre. C'est pas seulement d'être fort en course à pied ou bien d'être capable de gérer des pays chauds, des pays froids ou des climats. Il faut trouver un équilibre général. Et c'est clair que j'ai eu cette chance-là, de nouveau grâce à mes parents qui m'emmenaient en nature. Très très souvent, on allait camper. Je prends un exemple qui paraît ridicule. Au jour d'aujourd'hui, on écoute les bulletins météo 15 jours avant. Et puis moi, je suis guide de haute montagne et les clients me téléphonent une semaine avant. Est-ce que tu crois que ça sera possible parce qu'ils annoncent quelques nuages, quoi? Je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais connu et que je ressens pas du tout. Je le ressens maintenant quand je regarde le bulletin météo, parce que c'est très important pour garantir une certaine sécurité de mes clients et de moi-même, ça c'est sûr. Mais quand on était gamin avec mes parents, on faisait de la randonnée puis on allait camper. Et quand on partait le samedi matin, c'est peut-être une erreur, mais c'est ma perception de gamin. De l'époque, j'avais l'impression que papa, maman ne regardaient jamais le bulletin météo. On a décidé d'aller marcher puis camper, on y allait. Et je me souviens d'être parti sous la pluie puis d'avoir campé sous la pluie et puis finalement on rentrait tout à fait content le dimanche soir. Et je crois que je suis un peu à cette école-là, donc. Impossible, possible. Oui, je crois que je suis dans un équilibre. Je me suis forgé déjà cette confrontation des éléments naturels. Et puis arrêter de se plaindre parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, on fait avec. Et puis après, évidemment, à l'âge de 15 ans, grâce à mon frère, je suis rentré dans un milieu de sport de compétition. J'ai commencé par être boxeur, ma vie. Donc à 15 ans, j'ai commencé la boxe. J'ai fait 12 ans de carrière en boxe et une petite carrière amateur tout à fait respectable qui m'a permis de m'affermir, de recevoir des coups et de ne pas abandonner. Où le résultat des cours, j'étais sélectionné aux Jeux Olympiques de Montréal en 76. J'ai été 6 fois champion suisse de boxe dans 3 catégories différentes et 84 combats de boxe. Alors quand on dit 84 combats de boxe, c'est une chose, mais monter sur un ring de boxe, je vous garantis que c'est une sacrée preuve à chaque fois. Parce que vous savez que même si vous êtes en pleine forme, même si vous êtes favori, vous allez recevoir des coups sur la tête et vous n'avez pas forcément envie. Ça peut paraître paradoxal pour les gens qui m'écoutent, mais c'est quand même un sport tout à fait particulier qu'on peut aimer, qu'on a le droit de détester. Je peux comprendre que ça soit incompréhensible pour beaucoup de gens, mais ça forge le caractère d'un homme et ça permet de... Ouais, ça permet d'évoluer dans la vie. Et j'avais déjà peut-être ce caractère un peu de survie ou de challenge, c'est possible, qui me vient peut-être de ma naissance. Je rappelle juste quand même que je suis parti un petit peu défavorisé à la naissance. Je suis né à 6 mois et demi, à 1,310 kg. Et il y a 68 ans, 1,310 kg, c'était la survie. Donc j'ai passé la première année de ma vie à rentrer, sortir des hôpitaux pédiatriques et autres parce que j'étais pas tout à fait fini d'être formé à terme. Apparemment, ça a quand même pas trop mal réussi, je ne vais pas trop se plaindre. Mais enfin, j'ai cette espèce d'esprit guerrier, battant et peut-être de survie qui m'habite, qui me permet parfois d'aller au bout d'un challenge ou comme ça. Mais dans des aventures aussi importantes que le Tour du Monde, je pense que la préparation de la boxe et de l'entraîneur que j'ai eu qui m'a enseigné beaucoup de choses intelligentes et intéressantes m'a permis de protéger ma santé, de m'affermir, de devenir adulte, de prendre des décisions, d'assumer mes choix. Et c'est comme ça que peut-être ça m'a permis d'ouvrir grand les yeux et puis d'avoir envie de vivre les routes du monde finalement. Parce que courir à la course à pied, c'est bien, mais c'est pas l'amour de la course à pied qui m'a fait voyager à travers le monde avec mes petits pieds. C'est l'amour des autres, c'est l'amour des relations publiques, c'est l'amour de la vie. J'avais envie de faire exactement l'extrême opposé de ce qu'un métier de guide permet. Le métier de guide de haute montagne que j'adore, je l'exerce depuis 40 ans cette année, à 40 ans que je suis guide. Et le métier de guide, c'est on prend l'avion, le train, le bateau, le vélo, la voiture, pour aller au bout d'une espèce de civilisation qui est la nôtre, pour s'éclater dans la grande nature qu'on a choisie. Et c'est magnifique parce qu'on vit que des belles choses en pleine nature. Et la démarche de la course à pied sur les routes du monde a été exactement le contraire. Je voulais m'immerger sur les mêmes routes que monsieur tout le monde prend pour aller à l'école, pour amener ses enfants à l'hôpital, pour partir en vacances ou bien pour travailler. Je voulais voir ce que vit le 80% des humains de la planète qui n'est pas forcément un endroit choisi. Donc on a traversé le bien, le mal du monde. On a vécu à ras-les-pâquerettes au rythme de 12 km à l'heure. On croit que c'est vite pour un coureur à pied, d'accord, mais sur les routes du monde, à 12 km/h, 40, 50 km par jour, ça avance pas vite. On est obligé de s'arrêter et de composer avec les humains de la planète. Et j'ai adoré cette immersion dans le peuple, qui sont des gens bien, ils sont des gens pas bien, des gentils, des méchants, des riches, des pauvres. Et j'ai adoré cette immersion. Je pense que ça m'a donné une certaine clairvoyance de notre planète Terre, qui est juste exceptionnelle et qui est fabuleuse, quoi.
Tu sais, 12 km/h, tu dis que c'est pas très rapide. Pour beaucoup, faire un marathon et tenir les 12 km/h du début à la fin, c'est déjà un challenge en soi. Toi, le faire tous les jours pendant 5 ans.
Indiscutablement, 12 km/h au niveau de la course à pied sur des longues distances, c'est quand même une sacrée bonne moyenne.
Bah oui.
Mais je me suis pas forcé, c'était mon gabarit.
Et il y a autre chose que je retiens de ton histoire que je trouve très intéressante, c'est cette confrontation à l'imprévisible. Tu vois, c'est. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à chercher la linéarité, le confort. Je parlais tout à l'heure du canapé, mais c'est pareil avec la climatisation. Tu parlais de la météo, le fait « Ah ben non, regarde, il va pleuvoir ou il va y avoir du vent, du coup on sort pas, on reste bien au chaud chez nous. » On est très peu confronté à la variabilité. Et ça, ça nous rend faible à plusieurs égards. Déjà parce que je pense que ça nous empêche de bien manager le stress, parce que on n'a plus de biais de comparaison, tu vois. Si t'es jamais confronté à ce qu'est un vrai stress, une vraie difficulté, tout te semble potentiellement difficile, problématique. Tu vois, ta feuille d'impôt, l'argent qui reste sur ton compte, etc., tout devient source d'angoisse. Et c'est ce qui fait le lit de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress chronique. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que ça limite de façon drastique ton expérience de vie, la capacité de ton expérience de vie, parce que du coup, dès que les conditions elles sont pas suffisamment bonnes, que ceci, que cela, eh ben, tu peux pas te permettre d'être heureux. Bah non, parce que le temps, les conditions, l'environnement est pas suffisamment bien pour que je le sois. Alors que si tu développes cette adaptabilité, tu t'aperçois qu'en fait, le bonheur, tu peux le trouver partout et que justement, je te le disais tout à l'heure, tu trouves jamais une soupe aussi bonne qu'après avoir galéré toute la journée en montagne, en avoir chié. Et bien sûr, ça vient de la difficulté, mais au final, si tu t'intéresses aux choses dont t'es le plus fier dans ta vie, c'est toujours des choses que t'as obtenues dans la douleur, dans la difficulté. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on essaie le plus possible de garder cette variabilité, de garder ce chaos, cette difficulté bien éloignée dans nos vies, mais que loin de nous rendre plus heureux, ça nous rend au contraire à la fois plus malheureux et plus faibles.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validé par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Oui, je pense que la grande qualité que je pourrais avoir, si pour autant que j'en ai une, c'est celle d'avoir le courage d'oser. Et en fait, c'est mon credo et toute ma vie, c'est avoir le courage d'oser. Je reprends de nouveau l'exemple dans une société qui nous met des barrières au niveau sécuritaire, au niveau de l'argent, au niveau des responsabilités. On arrive à une tristesse de l'humanité où les gens n'arrivent plus à dire oui, n'arrivent plus à dire oui, n'arrivent plus à dire non, parce que sitôt qu'on dit oui, il va falloir payer la responsabilité du oui, puis sitôt qu'on dit non, il va falloir payer la responsabilité du non. Et ça nous met tous un petit peu dans des moutons avec des émotions tout à fait moyennes. Et je crois qu'avoir le courage d'oser, c'est oser aller un petit peu au-delà de ça et puis peut-être aussi être capable, malheureusement, de devoir assumer le résultat. Je prends l'exemple dans mon métier de guide de montagne, quand les gens, maintenant, avec le bulletin météo, qui est très précis, mais ce n'est pas toujours facile, sitôt qu'ils annoncent trois nuages, la plupart des clients me téléphonent « Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire ?» Et moi, systématiquement, je leur dis toujours « Alors, on va jouer les cartes sur table. Il y a 50% de risque qu'il fasse beau temps ou 50% de risque qu'il fasse mauvais temps. Si vous êtes d'accord, vous prenez le risque, on ira faire quelque chose. Peut-être pas le sommet qu'on a prévu, mais on fera quand même de la montagne avec une marge de sécurité. Et puis, s'il me fait mauvais, on s'adapte. » Eh bien, ce jeu-là, je vous garantis que sur 10 fois que la météo est moyenne, il y a 8 fois où on réussit à faire ce qu'on fait, puis 2 fois on n'y arrive pas du tout, puis on s'est complètement planté, puis on a bouffé une fondue, et puis on a mangé des pâtisseries, puis on est rentré à la maison. Et puis je n'ai pas demandé d'argent aux gens, parce que je crois que ça paraît aussi honnête. Et puis ma foi, tant pis, on s'est loupé. Mais 8 fois sur 10, même avec une météo instable, on réussit à faire peut-être pas la montagne qui avait été prévue, mais on réussit à vivre de belles choses et de belles émotions, et les gens rentrent avec un grand soleil dans le cœur le dimanche soir à la maison. Je pensais quand même pas mal, ça vaut la peine d'avoir le courage d'oser. Arrêtez d'avoir peur pour tout, quoi.
Oui, et puis c'est ça aussi, tu vois, quand tu fais de l'alpinisme, bien évidemment, il faut minimiser les risques, et je comprends bien ta responsabilité en tant que guide, mais c'est aussi, d'une certaine façon, une forme de communion avec la nature, et il faut aussi respecter le fait que la nature est par essence imprévisible. Tu vois, nous, je me souviens, donc la première fois avec le Breithorn, à un moment, on était arrivé en haut du Breithorn, et là, on voit les nuages qui arrivent, etc., on devait se poser normalement pour pique-niquer, et tu dis, non, il faut pas pique-niquer, il faut tout de suite descendre, et en plus, comme c'était moi qui étais dernier à la montée, c'était moi qui étais premier à la redescendre. J'avais même pas eu le temps de remettre mes gants. Enfin bref, on était parti à toute vitesse. Et l'année dernière avec le Mont Blanc, pareil, avant de faire le Mont Blanc, on avait fait l'arrêt des cosmiques. Il y avait eu un orage et donc on avait dû se dépêcher parce que ça devenait tout noir, etc. Il commençait à y avoir des éclairs. Il y avait notamment un passage où je me souviens que je pouvais pas mettre mes pieds. J'étais simplement à la force des bras et le truc et ça tonne en plus. Enfin voilà. Et donc bien évidemment, ça fait peur. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui engramme, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la richesse de la vie, par rapport à la richesse des expériences que tu as vécues. Moi, quand je regarde derrière moi ma vie, et j'ai que 32 ans, je suis reconnaissant et plein de gratitude de toutes les expériences que j'ai vécues. Je sais que je me suis jamais ennuyé, que je m'ennuierai jamais. Et c'est quand même merveilleux comme sensation, comme sentiment, et ça participe grandement à ma satisfaction personnelle, tu vois, et puis à ma densité, tu vois, à la palette de couleurs que je suis en train de développer sur mon propre chemin. Alors je dis pas forcément qu'il faut se mettre en danger absolument, ou qu'il faut faire des choses difficiles absolument, ça peut être des choses très simples, mais simplement justement se reconnecter à des choses qui sont peut-être un petit peu plus essentielles, et savoir faire le distinguo entre ce qui est important par rapport à la société, par rapport à ce qui est important vis-à-vis de nous. Et un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est cette approche un peu du stoïcisme, qui est de dire que tu peux pas contrôler ton environnement, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Et tu vois, il y a pas très longtemps, par exemple, là, il y a peut-être 2 semaines, je revenais de Montpellier, et donc y avait des histoires de grève, etc. Et bref, quoi qu'il en soit, je me suis arrêté à une station. Et on devait avoir 40 minutes, donc j'en ai profité pour sortir, faire un peu de mobilité, quelques étirements et tout. Quand je suis revenu sur le quai, mon train était parti avec toutes mes affaires dedans. Et donc, et voilà, et tu vois, j'aurais pu pester contre le destin et me dire, merde, il y a mon ordinateur, et peut-être qu'on va me le voler. Et puis, je devais arriver à midi chez moi, je vais arriver à 20h, et en plus, je sais même pas si je vais y arriver. Enfin voilà, prendre en compte toutes les conséquences néfastes que ce problème, ce coup du sort pouvait avoir sur moi. Ou même râler contre la SNCF, parce que la SNCF m'avait dit qu'on resterait à quai 40 minutes, et au final, il est parti au bout d'un quart d'heure. Ils m'ont menti. J'avais même demandé au contrôleur sur le quai si j'avais le temps d'aller prendre mon café. Il m'avait dit oui, il me l'avait assuré. Et donc, j'aurais pu faire ça. Et plutôt que de faire ça, eh ben, j'ai été chez un relais, là, tu vois, les petites librairies. Et puis, j'ai acheté un magazine. Ce que je ne fais jamais parce que je suis quelqu'un de tellement passionné qu'il y a plein de livres qui m'intéressent. Et j'ai l'impression déjà de ne pas avoir suffisamment de temps pour lire tous les livres qui me passionnent. Du coup, je vais pas en plus me rajouter de la charge en achetant des magazines. Et donc, j'ai acheté un magazine qui s'appelle Epsilon, un hors-série sur les super-pouvoirs de l'univers, des plantes, des animaux, des hommes. Et il m'a passionné. Et j'ai adoré faire ça. Et puis, j'en ai profité pour me promener dans la ville, écouter un podcast justement sur le stoïcisme d'un nouveau podcasteur que je connaissais pas qui s'appelle Le Précepteur, qui est génial, que je vous recommande et que j'essaierai de recevoir sur le podcast d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que si t'accueilles ce qui t'arrive, ça change radicalement la façon dont tu peux vivre l'événement. Et donc, tu vois, si j'étais resté bloqué sur le côté négatif, j'aurais peut-être passé une journée de merde. Ben, la réalité, la conclusion, c'est que je suis arrivé à 19h30 chez moi. Ma femme est venue me chercher. J'étais rempli de gratitude pour le fait de revoir ma femme, ma fille, de les prendre dans mes bras. J'étais heureux de les voir, tu vois. Et j'avais passé une bonne journée.
Belle expérience, bravo. Hein. Non, c'est sûr, être capable de s'adapter. Moi, je vois une des questions, je suis conférencier avec le film du Tour du Monde ou d'autres films, et bien souvent on me dit, mais comment vous faites pour pas avoir peur de pas savoir où vous allez dormir le soir? Parce que c'est clair, pendant pratiquement 10 ans de notre vie, entre l'Europe, les Amériques et le Tour du Monde, quand on part le matin pour courir avec la moto et la remorque, on n'a aucune idée où c'est qu'on va dormir le soir. Et ça étonne étonnamment nos pays riches aseptisés comme la Suisse et la France, les deux pays que je connais le mieux, où la plupart des gens s'inquiètent terriblement de savoir où ils vont dormir le soir. Et moi, j'en étais presque arrivé à tourner un peu espiègle, comme je pourrais l'être, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, ça vous rend inquiet de ne pas savoir où vous allez dormir le soir. Et moi, ça me rendait plein de soucis de me dire, j'espère que je ne sais pas encore où je vais dormir ce soir. Et savoir être capable de s'adapter, c'est ce que t'expliques là par rapport à ton train qui est parti avec tes bagages dedans. tu as réussi à en faire quelque chose de positif plutôt que de te plaindre tout l'après-midi. Et je pense que ça, c'est une qualité qu'il faut travailler et qu'on peut acquérir. Tout le monde peut acquérir cette qualité-là.
C'est ça. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose. C'est pour ça que c'est important de le partager et que j'adore ce que tu es en train de partager à ce micro. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se muscle. Et pour ça, eh ben, il faut aussi se confronter de temps en temps à un petit peu d'inconfort. Alors, peut-être que pour la plupart des gens, ce un petit peu d'inconfort, ça peut être, j'en ai déjà parlé sur ce podcast avec d'autres invités, des choses comme la douche froide, par exemple. Mais tu vois, d'une certaine façon, en allant dans la douche froide, bah déjà, tu fais quelque chose qui te semblait difficile ou impossible et en réalité, tu t'aperçois que tu es capable d'y survivre parce que c'est considéré par le corps comme un véritable stress, une angoisse. Et pour autant, eh bien, si tu te centres sur ta respiration, tu te rends compte que tu arrives à prendre le contrôle et même à trouver du confort dans l'inconfort. Donc, il y a ça. Et puis en plus, derrière, quand tu reprends une douche chaude, eh ben, t'as tout le plaisir, toute la satisfaction, ce fameux biais de contraste dont je parlais tout à l'heure avec la bonne soupe après avoir marché dans la montagne. Ben, tu l'apprécies 100 fois plus. Alors toi, bien évidemment, ta vie est faite d'imprévisibilité. Alors tu vas pas aller t'embêter à aller faire une douche froide. Comme tu le disais, si tu vois un motel ou un bon restaurant, alors, bah, tu vas sûrement y aller. Et t'as raison, parce que toute ta vie n'a été qu'une sinuosidale, une homéostasie entre des endroits où t'étais à des niveaux de confort très acceptables et puis d'autres à des niveaux d'inconfort très importants.
C'est intéressant l'exemple de la douche parce qu'effectivement, on est dans des pays tellement riches qu'on peut se permettre maintenant le luxe de prendre des douches froides alors qu'on a de l'eau chaude. Les humains ont passé des siècles, voire des millénaires à réussir à créer le feu, à se chauffer pour rendre la vie moins dure et agressive. Et maintenant, le luxe suprême, c'est d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'électricité, d'avoir du confort, puis d'aller prendre une douche froide. Alors moi, honnêtement, j'en suis pas du tout comme ça, je le fais pas. Je trouve que le confort, c'est juste extraordinaire. Tellement je suis capable de m'en passer du confort que quand je l'ai, ben je sais l'apprécier.
C'est
ça, c'est fantastique.
Mais
ça,
c'est parce que toi, t'es à l'inverse de la plupart des gens, parce que pour toi, le confort n'est pas la norme. Et le luxe.
D'ailleurs, moi, j'adore le luxe et le confort parce que je suis capable de m'en passer. Quoi.
Voilà,
donc,
mais ta
quand
norme,
il est là, je sais l'apprécier.
Mais pour toi, ta norme, c'est l'inconfort. Donc, tu sais apprécier le confort.
C'est juste.
Mais le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont le confort. Et donc, du coup, ils n'arrivent plus à apprécier l'inconfort.
Mais enfin, ça fait sourire un peu. Comme je dis, maintenant qu'on a tout, on a enfin acquis tout. Maintenant, le plaisir suprême, c'est de se forcer à prendre des douches froides tous les matins. Ça fait du bien pour l'organisme, certes, mais c'est juste une.
Oui, non, voilà. Mais c'est très amusant, je suis d'accord avec toi.
C'est intéressant.
Est-ce que tu veux me raconter un petit peu, donc tu disais que tu savais pas où t'allais dormir le soir, etc. Peut-être que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble une semaine pendant ce tour du monde. Sur plusieurs aspects, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Comment est-ce que tu le vis, bien évidemment, au jour le jour, mais aussi comment est-ce que tu arrives à manger suffisamment en courant toute la journée? Comment est-ce que tu arrives à trouver le sommeil, à trouver un endroit où dormir, comme tu le disais, à récupérer, à, tu vois, délier un petit peu tes muscles et peut-être, tu vois, tous tes tendons qui ont peut-être tendance à s'enraidir, à devenir de plus en plus tendus, de plus en plus bloqués. Comment est-ce que tu te sens bien? Comment est-ce que justement tu arrives à apporter un petit peu de contrôle pour trouver du confort dans cette haute variabilité inconfortable?
Oui, c'est un vaste sujet. Là, tu touches à beaucoup de composantes. Ce qui permet de réussir à courir un marathon par jour, 5 jours par semaine pendant 5 ans sur les 5 continents, c'est pas simple. Je dirais qu'il y a quelques règles de base, comme ça, si on schématise et on caricature, il y a 3 choses qui, je pense, ont participé au succès de ce genre d'aventure à la démesure des temps. C'est d'abord, je dormais 9 à 10 heures par nuit. Et le sommeil, c'est assez intéressant. Dans nos pays riches, on se rend compte que le sommeil, je pense que c'est le médicament le moins cher qu'a l'humain à disposition pour récupérer de quelque misère que ce soit. Le sommeil, c'est très important dans la récupération. Et dormir 9 à 10 heures, c'est un luxe que peu de gens dans nos pays riches font, soit par obligation, mais surtout par nos loisirs. On est toujours tenté à passer sa soirée au cinéma, au théâtre, à la musique, en famille, et puis on enregistre les émissions de la semaine d'avant pour regarder, et puis ainsi de suite. Donc les gens, finalement, beaucoup de gens, finalement, dorment entre 5 et 6 heures par nuit, et je pense que c'est pas suffisant. Donc beaucoup de sommeil m'a permis de récupérer bien de la course à pied. Je faisais minimum 40 minutes d'assouplissement, de stretching le matin, de mise en train, et 40 minutes, je vous garantis que c'est extrêmement long. Ça veut dire que pendant ces 40 minutes, vous faites de la petite gymnastique douce, des étirements, de l'assouplissement. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas fait un seul kilomètre sur les routes du monde. Donc, c'est très frustrant quelque part parce que 40 minutes, on aurait déjà fait 8 kilomètres de route. Et pourtant, je m'y astreignais 40 minutes le matin et 20 bonnes minutes le soir de récupération. Donc, je pense que le sommeil en premier, la gymnastique douce, l'assouplissement, le stretching matin et soir, ça a été une des composantes, et beaucoup boire. Alors moi, je viens d'un pays viticole comme le Valais où il y a de la production de vin. Quand je dis en conférence qu'il faut beaucoup boire pour la santé, tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ça veut dire que je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je buvais exagérément. Donc je faisais que pisser, hein, il faut être réaliste. Et je me levais la nuit pour faire pipi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc beaucoup boire parce que l'organisme a besoin. À longueur d'année, je bois beaucoup. Ce n'est pas simplement dans la vie en général, je pense qu'il faut. C'est mieux de boire un peu trop, plutôt de l'eau que... Mais je pense que beaucoup boire, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup dormir, beaucoup faire d'assouplissement, beaucoup boire. Caricaturalement parlant, je pense que c'est une bonne trois composantes qui m'ont permis de réussir ces courses à pied. Et puis peut-être aussi, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. De toute façon, je vais te relancer là-dessus, mais c'est déjà très intéressant sur les trois petits ingrédients que tu nous as donnés, et notamment sur le sommeil. Je viens de terminer un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?», qui est exceptionnel, et qui montre que, bien évidemment, le sommeil est extrêmement important, mais à plein de niveaux, et pas seulement au niveau de la santé, de la récupération, parce que c'est à ce moment-là que, justement, le corps se répare, les tissus, que l'anabolisme se fait, enfin voilà... Dans une logique de santé, je pense que tout le monde est d'accord et c'est plus ou moins que le sommeil est hyper important. Mais même d'un point de vue cognitif, le sommeil permet de réinitialiser le système pour apprendre, de faire le tri un petit peu dans les souvenirs, dans ce qui s'est passé dans la journée, etc. pour engrammer ce qui est important et élaguer tout le reste pour pouvoir laisser une place vacante pour apprendre de nouvelles choses. Donc il y a des études qui ont montré que par exemple le manque de sommeil t'empêchait d'apprendre de nouvelles choses le lendemain, et à l'inverse, si t'apprends des choses, le fait de ne pas avoir une bonne nuit de sommeil t'empêche de les engrammer, donc de t'en souvenir, de les mémoriser. Donc sur la mémoire, la créativité. Il y a notamment des artistes qui ont réussi à écrire certains de leurs plus belles chansons, et notamment, je crois, Alléluia, Alléluia, etc., pendant leur sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est hyper important dans la construction de la créativité, de le fait de faire des liens entre différentes zones du cerveau, d'avoir une vision un peu plus large des choses, etc. Donc c'est hyper important à ce niveau-là aussi. Et enfin, tu parlais de ces gens hyper occupés qui dorment 6 heures par nuit. Moi, je viens du milieu de l'entrepreneuriat, j'ai une start-up, pendant tout un temps, il y a eu cette espèce de mode, où on valorisait les semaines de 80 heures, ou alors, évidemment, on faisait pas de mobilité, clairement, il n'y avait pas de temps pour ça, mais il était valorisé de dormir 6 heures par nuit, tu vois, comme quoi, ouais, on est un super héros, et puis comme ça, on peut travailler plus, et puis en faire plus, et avoir plus d'impact. Et en fait, il y a aujourd'hui des études qui ont été, je crois, l'idée par Harvard, mais j'en suis pas convaincu, donc il faudrait vérifier. Qui ont montré que les hauts dirigeants, chefs d'entreprise, politiciens, hauts managers, postes à responsabilité, etc., qui dormaient 7 heures de sommeil ou moins chaque nuit, prenaient de moins bonnes décisions, mais à tout niveau et à des niveaux très importants. Et donc, ils ont même réussi à estimer le nombre de millions de dollars que ça faisait perdre aux entreprises qui dirigeaient. Dans le cas de politiciens, ça faisait perdre 2% du PIB. Donc ça se chiffre aussi en milliards de dollars. Donc même en fait, dans cette logique de se dire « Ouais, pour être plus productif, je dois moins dormir pour avoir plus de temps pour faire plus de choses », en réalité, c'est un mauvais calcul parce que pendant tout le temps où on sera éveillé, eh ben, on fait que des choses à moitié.
De toute façon, on dissèque tout ça d'une manière scientifique et tu le vulgarises un peu ici, j'adhère tout à fait à l'idée. Mais sincèrement, n'importe qui m'écoute sera d'accord avec moi. Un petit peu de bon sens et un petit peu naturel. Qui me dit que quand quelqu'un a dormi que 2 heures la nuit, il se sent pas bien le lendemain? Je pense que tout le monde a connu cette expérience-là, puis c'est normal de la connaître. Et tout le monde sait que s'il a fait une bonne nuit de sommeil de 8 heures, ah, nom d'une pipe, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour savoir ça. Puis si on n'a pas soif et puis qu'on a bu régulièrement, qu'on se sente bien... Ça me paraît une assez évidence. Le stretching, c'est peut-être un petit peu plus dans une dimension sportive, c'est clair. Mais même pour tous les jours, prendre le temps de se réveiller gentiment, de faire quelques étirements comme un chat qui se réveille le matin, tout le monde sait que ça lui fait du bien.
Ouais, 40 minutes de stretching tous les jours, c'est peut-être dans une dimension sportive. Voilà. Mais par contre, faire 10 minutes de mobilité le matin pour réveiller un petit peu le corps, moi, depuis que je le fais, j'ai aucune douleur nulle part, ni à mon dos, ni nulle part. Alors que tous les gens que je croise à la machine à café ou ailleurs se plaignent toujours de leur mal de dos, de leur mal à la hanche, au genou,
à la cheville. Et puis qu'est-ce qu'on entend tous les gens propriétaires de chiens? Qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent la même chose. Le matin, c'est un peu une contrainte, mais je vais promener le chien, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Je vois des oiseaux, je vois de l'air, je prends le temps de réfléchir à mon programme de la journée. D'aller promener le chien, en fait, c'est une thérapie pour les humains. Et tout le monde sait ça.
Et en plus, ce qui est super avec le chien, c'est qu'il regarde pas les bulletins météo. Donc même s'il fait pas beau, le chien, il faut quand même le promener.
Moi, je vais avoir un petit côté chien, alors. Non, mais ne vous y méprenez pas. Le bulletin météo, c'est extrêmement important. Je n'ai pas dit qu'il fallait le banaliser. Je dis seulement que le mauvais temps n'existe pas. C'est nous qui devons adapter nos activités sportives ou nature en fonction du bulletin météo. Comme je dis en montagne, l'exemple du Mont Blanc, c'est tellement connu. Combien de fois, au lieu de guider des gens au Mont Blanc, au lieu d'annuler la course parce que la météo n'était pas compatible avec la sécurité nécessaire pour aller au Mont-Blanc, on a fait un autre 4000 mètres ou carrément une autre montagne ou même une vie à faire atteindre une journée d'escalade et les gens sont rentrés avec du soleil plein la tête, on n'a pas fait le Mont-Blanc, mais ils ont vécu quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du bulletin météo.
Non, bien sûr, bien sûr. Et alors, donc, le matin, donc, tu te lèves, tu fais, tu prends peut-être quand même un petit déjeuner, tu fais ton stretching.
Ah voilà, c'est ça que je voulais dire avant, je te coupe parce que ça me revient à l'esprit. Dans une des choses importantes, la diététique, on l'a aussi disséqué, tous les scientifiques et nutritionnistes de la planète ont disséqué tout ça. Et moi, je voulais montrer, en fait, à la face du monde, en faisant un tour du monde, qu'on pouvait réussir à faire de grandes choses avec des moyens liés au peuple. Donc, je n'ai jamais pris aucun complément, ni vitaminé, ni sel minéraux, ni rien du tout, tout ce bazar. Par contre, j'avais une politique qui était très, très importante. Je devais réussir à manger assez. Donc, réussir à manger 5-6 000 calories par jour, c'est pas si facile quand on court. Mais en fait, je mangeais le plus possible et le plus varié possible. Et finalement, ça ne m'a pas trop mal réussi. Évidemment, j'ai quand même eu quelques problèmes de sportif. Mais quand on court un marathon par jour, 5 jours par semaine, c'est peut-être normal. Dans les 3 ans d'Amérique, ainsi que dans les 5 ans du Tour du Monde, j'ai eu chaque fois 3 tendinites. Mais pour un sportif de course à pied, d'avoir une tendinite, c'est une sonnette d'alarme qui vous dit « mets ton cheval à l'écurie et bouffe ton foin ». Donc prends le temps de récupérer, prends le temps de guérir, soigne-toi. J'ai chaque fois réussi à résorber mes tendinites et à repartir sur des moyennes de marathon par jour. Donc c'est tout à fait possible. C'est une petite sonnette d'alarme que l'organisme met en place. Et il faut juste en tenir compte. Mais j'avais aucun régime particulier. Je mangeais le plus possible, le plus varié possible. Et ça m'a assez bien réussi jusqu'à aujourd'hui.
À part le régime Coca-Cola, quoi.
Voilà, le régime Coca-Cola, c'est quelque chose qui étonne tout le monde. Parce que dans le Tour du Monde, j'ai bu 6 tonnes de Coca-Cola. Je buvais 4 à 5 litres de Coca-Cola par jour. Mais il faut savoir que j'ai quelques explications là-dessus. Ça veut dire qu'on avait décidé, Nicole et moi, d'acheter tout ce qu'on allait boire. Parce que si on commence à jouer sur les 5 continents avec l'eau des robinets des pays riches et l'eau des robinets des pays pauvres, un jour on va risquer d'être contaminé, voire en mourir. On sait très bien que le plus grand taux de contamination et de problème vient de la flotte, ou des fruits ou des légumes, enfin de l'eau. Donc on avait décidé d'acheter tout ce qu'on allait absorber, ce qui est quand même un budget sur 10 ans de notre vie. Donc quand on est arrivé à Ushuaia en Patagonie, en Argentine, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 3 boissons à acheter aux 4 coins perdus de la planète, comme la Patagonie. Il y a de l'eau, de la bière et du coca. La bière, je m'en fous, je bois pas d'alcool. De l'eau, j'en ai bu beaucoup, ça n'étonne personne. Le Coca-Cola, j'en ai bu beaucoup, ça étonne tout le monde, donc j'en parle. Mais j'ai bu autant d'eau que de Coca-Cola. Alors ça, c'est la première raison. On trouvait ces boissons n'importe où. Donc j'ai commencé à acheter du Coca-Cola, et je me suis aperçu que la boisson qu'on transportait sur la remorque, vu que Nicole avait notre petite maison dans une remorque, donc on avait toujours une dizaine de litres à boire, et puis l'eau, que ce soit l'eau ou le Coca-Cola, il prend la température extérieure. Donc le Coca-Cola, il peut avoir 20, 30, 40 degrés. Donc vous mettez du Coca-Cola dont vous avez enlevé les bulles, parce que c'est pas compatible de boire 4-5 litres d'eau gazeuse. Donc vous enlevez le Coca-Cola, il n'a pas de bulles, il fait 30 ou 40 degrés, c'est dégueulasse à absorber. C'est pas forcément bon comme le bon Coca-Cola qu'on boit sur une terrasse au bistrot. L'eau, c'est la même chose, elle a 40 degrés ou 30 degrés. Maintenant, quand vous avez très soif et que vous courez, vous buvez facilement, quand vous faites une pause, un demi-litre, voire un litre à boire quand il fait très très chaud. Donc essayez de boire un litre d'eau qui fait 20, 30, 40 degrés, vous allez garder une boule à l'estomac pendant 3 quarts d'heure dans l'estomac. C'est difficile à digérer, à courir. Vous faites la même chose avec le Coca-Cola qui n'est pas bon au niveau gustatif parce qu'il fait 20, 30, 40 degrés, il n'a pas de bulle, mais 10 minutes après, il a passé dans l'organisme. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison, vous le digérez beaucoup plus vite que l'eau. Et puis, évidemment, quand vous courez des grandes distances, vous perdez un peu l'appétit, surtout sur les routes du monde. Qu'est-ce que vous trouvez à manger au bord des routes? C'est gros, c'est gras, c'est fade, c'est huileux, c'est sec à mourir,
ça
des crackers, c'est
autre. Ça aide à faire 6 000 calories
par jour. Donc, ça aide aussi à faire 6 000 calories par jour, mais surtout le Coca-Cola, je crois que tout le monde sait que c'est bourré de sucre et puis que ça fait grossir, et puis que si on en boit trop, ben, ça a beaucoup d'inconvénients. Mais en fait, ça me permettait de boire des milliers de calories sous forme liquide. Et franchement, j'ai pas pris un gramme et je veux pas faire l'apologie de cette boisson, c'est pas vrai, mais j'ai tout essayé et très honnêtement, j'ai vu que ça me convenait. Et de nouveau, j'ai arrêté d'écouter tout ce que le monde entier me disait. Ça me convenait très bien à mon organisme, ça convient peut-être pas à celui de mon voisin, j'en sais rien, mais moi ça m'a convenu. Donc une fois que je trouve quelque chose qui me convient et qui correspond à moi et qui détruit pas mes voisins, parce que j'aime bien le respect des gens, donc ça me concerne que moi, donc j'ai arrêté de discuter, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai bu du coca. Et à ce régime-là, ben, en tout cas, j'ai réussi le tour du monde et ça va toujours assez bien maintenant. Évidemment, j'ai arrêté d'en boire, je bois tant un verre pour le plaisir, comme tout le monde.
Oui, après le coca, il est décrié, et même les sodas de façon générale, à juste titre, pour son impact notamment sur la glycémie et le fait qu'il fasse le lit notamment du diabète, mais parce que très peu de personnes boivent un litre de coca par jour en ayant couru en plus un marathon dans la journée, tu vois. La plupart des gens, s'ils ont fait la promenade du chien de 20 minutes le matin, c'est déjà un bel exploit.
Non, mais pour clore le débat du Coca-Cola, parce que bon, c'est intéressant jusqu'à un certain moment, puis ça fait sourire tout le monde. Soyons très clairs, j'ai eu la chance et le privilège de donner au moins 200 conférences dans des écoles en Suisse avec des élèves qui ont entre 12 et 15 ans. Et c'est sûr qu'à 12, 15 ans, quand vous leur dites « je buvais 4-5 litres de Coca-Cola par jour », ils sifflent et ils adorent parce que ils vont rentrer à la maison. Alors je leur disais toujours « mais non, je vous ai expliqué tout ce que je viens de vous raconter ici aussi ». Et soyons très très clairs, si vous courez 40 à 50 km par jour, vous avez le droit de boire du Coca-Cola. Si vous ne courez pas, il n'y a pas de Coca-Cola. Est-ce que c'est clair? Tout ça pour me mettre à l'abri de quand le gamin rentre à la maison et puis qu'il ouvre le frigo, puis qu'il vole du Coca-Cola, puis qu'il se fait engueuler par papa, maman avec raison, et puis qu'il dise « mais moi j'ai entendu un fou furieux ce matin qui m'a dit qu'il en buvait 4 litres par jour ». Alors il faut être clair, ça veut dire qu'en courant 50 km par jour, vous pouvez vous permettre certains excès, comme par exemple cette boisson-là, que vous ne pourriez pas autrement. Ça m'a convenu. Maintenant, si dans la vie normale, même de guide de montage, je buvais 5 litres par jour, je pense que j'aurais des gros problèmes. On est d'accord.
Ouais. Et donc le coca, la mobilité, le fait de manger de tout. Et donc la journée, elle ressemble à quoi? Après ton petit-déj le matin et ton stretching, tu te mets à courir, tu fais quoi, 20 km, tu t'arrêtes à manger le midi, tu fais une petite pause pour digérer.
On fait en général entre 28 et 32 km avant une pause un peu plus importante qu'on appelle la pause du midi, où on mangeait 2-3 crackers ou rien du tout, et puis je me couchais, je faisais une turbo-sieste ou une micro-sieste de 15-20 minutes, et franchement c'était assez réparateur, c'était très bien. Mais je courais pas selon les méthodes de la santé du sportif, je dirais. En fait, j'ai voyagé, mon mode de déplacement, c'était mes petits pieds. Et j'aime le dire comme ça, je mettais toute la vie dans ma course et toute la course dans ma vie. C'est-à-dire que je courais pas comme on le fait ici à la maison où on a un travail, on a une vie de famille, on a des obligations. Et puis le soir, on prépare son sac de sport, on met ses baskets et on va courir. Quand on rentre, on prend la douche, on prend ses céréales, on mange et on dort. Non, c'était pas tout à fait possible de le faire de cette manière-là. Je me suis fondu dans une autre manière de vivre. C'est-à-dire, je prends un exemple qui fait souvent sourire les gens. Je disais, on faisait souvent des faux départs. Alors je vous explique ce que c'est. Quand on a passé une nuit en camping, on plie son bagage le matin, on a bu du thé, parce que je bois beaucoup de thé ou de l'eau et du coca, mais le matin je buvais surtout du thé, je fais mes 40 minutes de stretching et puis après je pars gentiment courir, et puis on était en camping, et puis je dirais dans les 3 premiers kilomètres, on tombe sur un village ou on tombe sur un bistrot au bord de la route. Ah ben qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête puis on va boire un café. Donc on s'arrête, même si j'ai couru que 500 mètres, alors les jambes sont pas encore chauffées et tout, j'appelle ça un faux départ, parce qu'il faut prendre la vie où elle est, parce que vous pouvez pas moralement courir pendant 10 ans de votre vie comme une machine, comme un automate, courir selon la technique sportive. Non, ça fonctionne pas comme ça, on n'avait pas de bus d'assistance, on n'avait pas de logistique, on a tout géré, une femme, une moto, une remorque et un type qui court. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le plaisir de la vie et l'intégration et la discussion avec les gens, la relation humaine, c'est extrêmement important. Donc on a fait d'innombrables fois de ce qu'on appelle des faux départs. Sur le plan sportif, ça aurait été mieux de continuer, de se chauffer, puis d'avoir un roulement. Non, après 500 mètres, 1 km ou 2 km, on s'arrêtait parce qu'il y avait un bistrot, on allait boire un café, on discutait 2 minutes ou 10 minutes avec les gens, puis on repartait. Je regardais même pas la montre, on s'en fout. On repart quand c'est le moment de partir. On reste pas non plus pendant 3 heures parce que la journée est longue et si on veut faire sa distance. Donc voilà, c'est ça que j'explique un petit peu. Faut pas être trop rigide, faut savoir être souple. Mais le résultat final, on s'arrête la journée type, je dirais, toutes les 30 minutes pour s'arrêter, pour faire un peu 30 secondes de stretching, juste 2-3 mouvements pour les jambes et le dos. Et puis boire, et puis peut-être grignoter quelque chose. Mais je dis souvent, je mangeais pas. J'avais perdu l'appétit un peu. Et puis la journée s'arrête, ça dépend le climat extérieur, mais il faut s'arrêter assez rapidement dans la journée, entre 14h et 16h, il faut s'arrêter, parce qu'il faut quand même que l'organisme il ait plusieurs heures devant lui pour récupérer la déshydratation. Même si vous buvez 8 à 10 litres par jour, dans des climats où il fait 32 degrés et 100% d'humidité, comme peut l'être les pays étouffants de l'Afrique de l'Ouest, du Queensland en Australie, de la Floride aux États-Unis, de la Malaisie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, il fait des chaleurs incroyables, vous savez ce que c'est. C'est très bien quand vous êtes en vacances, mais à 3h le matin, vous transpirez sans rien faire. Donc quand vous commencez à courir 50 km, il faut beaucoup de temps à l'organisme pour récupérer la déshydratation. Sur le plan sportif, on sait qu'un sportif peut ingérer, s'hydrater à raison de 8 décis à 1 litre par heure maximum. Mais quand vous courez pendant une heure avec des grosses températures, vous perdez 2-3 litres. Donc même si vous récupérez 1 litre pendant cette heure-là, vous avez un déficit de 2 litres. Après 4 heures de course, vous êtes complètement déshydraté. Donc il faut s'arrêter à 14h, 15h pour avoir jusqu'à 20h le soir le temps de se réhydrater. Et le meilleur moyen de contrôle, c'est de nouveau pas le contrôle médical. Si vous pissez jaune le soir, c'est pas bon. Si vous pissez blanc le soir, vous pouvez aller au lit.
Ouais. Ok, bon, c'est marrant parce que tu vois, ça me. Effectivement, c'est à contre-courant de la façon dont on aurait pu appréhender la chose de façon sportive, tu vois. Quand tu veux faire un défi ou un exploit sportif, c'est toujours très normé, très calculé. Et toi, en réalité, la course à pied, c'est simplement un outil qui te permet d'explorer le monde, d'en rentrer en contact avec les gens et de vivre, comme tu dis. Et au final, c'est un petit peu comme si tu avais réhabilité. Peut-être la façon dont vivaient à l'époque les chasseurs-cueilleurs qui étaient nomades et puis qui avançaient sur leur chemin. Et puis s'ils voyaient un champ de fraises, bah, ils s'arrêtaient pour les cueillir. Et puis après, ils reprenaient leur route, etc. Tu vois.
Et c'est
une très, très belle façon, je trouve, de voir, d'appréhender la chose. Et tu as plusieurs fois mis en avant l'aspect humain. Qu'est-ce que ça t'a montré? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as découvert en entrant au contact avec des peuples à travers le monde, dans plein de pays différents, mais sans la barrière de l'hôtel, de l'avion, de la voiture, en étant comme eux, extrêmement accessible et en vivant, tu vois, dans la rue avec eux, quoi.
Ce que le monde m'a appris de nouveau schématiquement un petit peu, et je pense que c'est très important d'en parler un petit peu, effectivement, et d'être immergé sur le 80% de l'humanité où vivent les gens. On a traversé des villes de 20 millions d'habitants, comme on a été dans les déserts ou bien dans les régions de tous les climats possibles et toutes les cultures possibles et imaginables. Je dirais que le monde m'a appris quelque chose de très important, c'est un peu plus de tolérance. Quand je dis tolérance, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas vrai. Mais ça veut dire que ce qui est bien chez nous n'est pas forcément bien de l'autre côté du monde, et ce qui est considéré comme mal n'est pas forcément mal. Je prends un exemple. Moi, j'aime bien les situations concrètes où je travaillais un peu par image. On avait ponctué notre tour du monde d'actions humanitaires liées à la condition de la femme et à la condition de l'enfance, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur avant de partir. Et j'ai eu la chance, par des organismes internationaux qui avaient préparé cette entrevue pendant au moins 6 mois, pour avoir le droit de rentrer dans une prison d'adolescents au Liban. Et dans cette prison, il y a place pour 2000 prisonniers là, à l'époque, et ils étaient 5000. Donc ça donne déjà un peu le topo, une prison un peu vieillotte, enfin le parfait scénario du film. Une prison vieillotte, et surpopulation, 5000 adolescents entre 12 ans et 18 ans qui sont incarcérés dans cette prison. Voilà pour le topo. Et j'avais demandé à pas venir faire du voyeurisme dans la prison. J'avais dit, si je viens une journée là-bas, on a obtenu les autorisations, on a eu la chance. C'était surtout pour partager quelque chose avec quelques adolescents qui étaient là-dedans. On pouvait pas partager avec 5000 personnes. Je disais, alors on va faire des joutes sportives. J'ai pas dit de la boxe, parce que ça aurait peut-être dégénéré, et puis c'était pas le but. Ça aurait mis de l'agressivité en place. Mais on a fait des appuis faciaux, de la corde à sauter, enfin quelque chose où on pouvait partager, comme toujours. Moi, je suis toujours pour partager quelque chose et pas simplement venir dire bonjour. Donc on a fait ça, et au milieu de ce partage amical avec quelques prisonniers de là-bas, de cette prison au Liban, il y en a un qui vient vers moi, et ça m'a marqué le restant de ma vie, ce qui me permet de parler de cette tolérance que j'aime beaucoup. Il vient vers moi, puis d'une manière assez agressive, il me dit « Tu sais pourquoi je suis en prison ?» J'ai pas eu besoin de lui poser des questions, il a fait le question-réponse lui tout seul. « Tu sais pourquoi je suis en prison ?»« Je suis en prison parce que j'ai tué mon père. » Donc un frein d'arrêt. Mais j'ai tué mon père parce qu'il a violé ma sœur. Alors ça veut dire qu'il vient d'un petit village, d'une religion musulmane très, très, très rigide certainement, enfin très endoctrinée. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une civilisation au monde qui tolère que le père il viole sa fille. Je crois qu'on est tout le monde est d'accord là-dessus, quelque religion que ce soit, quelque philosophie que ce soit. Ça veut dire que dans la religion musulmane, il a fait ce qu'on appelle un crime d'honneur. Il a lavé le déshonneur de la famille en tuant son père parce qu'il a rendu sa propre justice. Ce qui veut dire que dans son village, où j'y suis allé après coup, ça m'a beaucoup interpellé cette histoire-là, je suis allé dans le village, et dans le village, il était très bien considéré parce qu'il avait lavé l'honneur de la famille qui était très mal vu parce que personne dans le village adhérait que le père viole sa fille. Donc le fils a rendu justice, donc il était très bien considéré. On n'a pas dit que c'était un héros, on n'a pas dit ça, mais on a dit qu'il était bien considéré, puis que tout le monde était d'accord qu'il revienne au village. Par contre, pour la loi des hommes et des lois du Liban, il était assassin de surcroît de son père, donc il était en prison. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je suis pas là pour donner la réponse, je suis juste là pour le partager avec toi ici, devant ce micro, ou avec les gens qui nous écoutent. Ça veut dire que quand on regarde à la télévision, la radio, les journaux, puis qu'on entend les nouvelles internationales, en général, il nous faut un millième de seconde pour dire c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est mal, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et c'est peut-être la réalité, c'est pas toujours aussi simple. L'exemple de cet adolescent... Est-ce que je trouvais qu'il avait bien fait ou je trouvais qu'il avait mal fait? Je ne sais pas vraiment. Je sais, j'ai pas vraiment la réponse. Mais c'est une situation qui a été vécue. Et on voit quand même qu'il avait une sacrée sensibilité, parce que quand on a quitté la prison, il m'a offert un dessin que j'ai mis sous cadre, que j'ai toujours dans mes archives, où il a dessiné une cage avec un oiseau dedans, et il m'a dit, et avec la porte ouverte. Il m'a dit, l'oiseau, c'est toi, tu t'échappes, et puis moi, je suis l'oiseau qui reste enfermé dans la cage. Donc il avait une certaine souffrance d'être en prison, ce qu'on peut comprendre. Mais enfin, il avait raison, il avait tort d'avoir lavé l'honneur de la famille, d'avoir tué son père pour rendre justice. Hein, c'est difficile à dire. Voilà. Ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de tolérance au jour d'aujourd'hui, où j'essaye de regarder tout ce qui se passe dans le monde et de relativiser plus facilement les choses. Et déjà, rien que pour ça, ça valait la peine de le faire.
Et puis en plus, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on a une proportion... Donc, de toute façon, les sociétés complexes se sont construites un petit peu grâce au commérage, et le commérage est très lié au jugement de l'autre. Mais on a souvent tendance à juger... et à extrapoler ce que font les autres avec simplement une toute petite bribe de leur vie, et à extrapoler tout le reste en fait. Et donc le cerveau est en plus extrêmement fort pour faire plein de raccourcis. Et donc tu vois, c'est un petit peu comme si t'avais un damier avec plein de carrés, t'as juste un petit carré jaune, et donc t'imagines que c'est toute sa vie, alors qu'en fait c'était juste un petit carré jaune dans sa journée, tu vois. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple du coca, tiens, t'es en train de boire un coca, bah tiens, Serge, franchement, il a une hygiène de vie dégueulasse, il boit du coca, etc. alors que c'est très loin d'être le cas. Mais donc tu fais bien de. Enfin, je trouve que c'est important de remettre de la conscience là-dedans, et puis d'être d'être plus tolérant, plus bienveillant aussi. Mmh. C'est je pense que ça fait très niais de dire ça, mais le monde pourrait être tellement plus beau si chacun était plus bienveillant, plus axé sur le partage. On en revient un petit peu avec l'initiative de cette matinée d'escalade ce matin, tu vois. À la base, moi, je t'avais simplement proposé de faire un podcast. Tu as dit, ça serait chouette qu'on aille faire de l'escalade et qu'on mange un morceau en plus. Bah, moi aussi, j'ai trouvé ça super chouette, tu vois. Mais, et en fait, moi je le dis souvent, tu vois, on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. Et ça passe par des choses extrêmement simples. Tu vois, tu vas au restaurant, et ben, prendre le temps d'être souriant, chaleureux avec la personne qui va te servir. Tout à l'heure, on a ramené nos assiettes et nos couverts, alors que potentiellement, il y a une serveuse qui aurait pu le faire. Mais tu vois, c'est des petits gestes, c'est pas grand chose, ça demande pas beaucoup d'efforts, et pour autant, ça participe à rendre le monde meilleur.
C'est vrai.
Et dans un autre contexte d'interaction humaine, t'as été échappé au milieu de l'océan Atlantique en le traversant à la rame, perdu au milieu d'un petit bateau, ouais. Dans une promiscuité absolue avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est vraiment à l'opposé du spectre, puisque à part des poissons volants et peut-être quelques dauphins, t'as pas pu interagir avec grand monde. Qu'est-ce que ça t'a appris cette fois-ci sur toi?
En fait, j'ai eu le privilège de traverser l'océan Atlantique à la rame sur un canoë avec un de mes amis de Vancouver, Canada. Et en fait, je suis bien obligé d'avouer que je suis un pur produit de la terre et rien de la mer. C'est, je pense, l'expérience de vie qui a été la plus étrange et la plus spéciale dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et déjà, rien que pour ça, c'était génial, quoi. Hein. Mais il faut dire que ça s'est présenté d'une manière tout à fait particulière, parce que l'expérience n'était pas de traverser l'océan Atlantique à la rame, ce qui est déjà un sacré challenge et ce qui n'est pas gagné d'avance, c'est quand même une grande piscine à 5500 km. Mais ça veut dire que c'était plutôt la manière dont on l'a vécu. C'est-à-dire que mon ami de Vancouver, Canada, que j'avais plus vu depuis 12 ans, m'envoie un mail en mai 2010 et il me propose d'être son partenaire pour traverser l'océan Atlantique à la rame. Et connaissant ce personnage, même si je ne l'avais pas vu depuis longtemps, on avait beaucoup d'amitié et de respect mutuel déjà à l'époque. Et j'ai pris la décision de traverser l'océan Atlantique à la rame en 10 secondes devant mon ordinateur. J'adore dire ça parce que je sais que ça dérange un peu. Donc j'ai vu l'ordinateur, j'ai regardé ma femme Isabelle, elle a fait un sourire parce qu'elle connaît l'oiseau. Et j'ai marqué « yes, yes, yes ». Parce que si je commençais à réfléchir les tenants, les aboutissants, est-ce que ça signifiait la prise de risque, j'étais obligé de dire non. Raisonnablement, il faut dire non à une histoire pareille. Et en fait, ça m'a permis de vivre l'aventure la plus étrange de ma vie, parce que l'aventure était de deux ordres. Traverser l'Atlantique à la rame, d'accord. Être à deux sur le canoë, c'est une chose. Mais mon partenaire m'avait proposé de ramer 2 heures chacun son tour. C'est-à-dire que 2 heures de rame, 2 heures de pause, 2 heures de rame, 2 heures de pause, 24 heures sur 24 pendant 62 jours. Donc ça fait 2 mois. Ça veut dire que les 2 heures de rame, parfois, quand il y a gros temps sur l'océan et vous êtes tout seul à ramer à 3 heures le matin, ça peut paraître un peu long de ramer pendant 2 heures. C'est quand même un effort physique. Et après les 2 heures où c'est votre compagnon qui rame, les 2 heures de pause, c'est le temps qu'il faut pour faire à boire, faire à manger, réparer ses boutons affectés, faire le plan de navigation GPS et dormir. Donc en fait, on dort 1 heure toutes les 3 heures, jour et nuit, 24 heures sur 24 pendant 62 jours. Donc c'est une expérience hors norme et hors du temps, et c'était la proposition de mon partenaire, c'était d'aller voir qu'est-ce qui se passe en se mettant physiologiquement dans une atmosphère qui n'est pas du tout humaine finalement. Et je vous garantis qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on passe presque par des... Je n'ai pas tout à fait dit les hallucinations, mais pas loin, on perd un peu ses repères, on perd les normes, on ne sait plus où on ne sait plus quel jour on est. Je crois qu'après 48 heures de partie sur la mer, on ne savait plus quel jour on était parti. Les premières 24 heures, on a dégueulé, tripé, boyau, on a perdu 4-5 kilos, le mal de mer, c'est normal. On avait pourtant pris des pastilles chimiques pour éviter ça, mais ça n'a rien changé. Et puis, on est tout le temps fatigué, en effet. On a tout le temps sommeil, en fait. C'est pas logique. On avait l'impression d'être comme un loup au bord de la, ou le chien qui se couche et qui dort 10 minutes puis qui repart en pleine forme. Mais pour habituer à ça. Enfin, ça a été une expérience absolument étrange. Vous êtes mouillé 24 heures sur 24. Vous mangez tout le temps la même chose pendant 2 mois. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous avez sommeil. On nous a porté hors du bateau parce que j'avais perdu 8 kilos. Je les ai tous repris. On était épuisés. Mais enfin, ça a été une aventure extraordinaire. Moi qui avais la chance de voyager sur les 5 continents par voie terrestre d'une manière tout à fait originale en course à pied, je trouvais extraordinaire de traverser un océan d'une manière tout à fait originale. Et pour ça, je dis merci à mon partenaire. Mais ça a été une expérience extrêmement étrange. Et peut-être le résultat final m'a aussi amené une certaine réflexion. Je me suis dit pourquoi. Je me suis dit 100 fois pourquoi je suis. Qu'est-ce que je fous sur ce bateau, quoi. Enfin, je sais même pas si j'ai eu du plaisir. C'était trop dur, trop exigeant. J'ai aimé. Qu'est-ce que ça a apporté à ma vie. Mais je sais pas si j'ai aimé ramer l'Atlantique. C'est trop exigeant. C'est trop compliqué. C'est trop complexe. Surtout de la manière dont on avait choisi. Mais ça m'a surtout permis de me dire que, en fait, quelque part, ça m'a fait prendre conscience que c'était un luxe extraordinaire de se foutre dans une situation merdique comme celle que j'ai vécue là, parce qu'en fait c'est le luxe d'être né dans un pays riche et en bonne santé. Je veux dire, c'est un luxe qui sert à rien. Mon partenaire était un personnage extrêmement riche, donc il n'y avait pas de recherche de sponsoring, pas d'autocollant, on courait pas pour un Guinness Book, on courait pas pour faire une première ni une dernière, ni un leader d'entreprise, ni une récolte humanitaire. On faisait ça pourquoi? On peut vraiment se poser la question. Et peut-être simplement, on l'a fait, et puis voilà, ça s'est fait, puis ça a apporté quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'on en parle ici au micro.
Et justement, c'est pourquoi, si on s'intéresse un petit peu en filigrane à ce qui a guidé ta vie, ce qui a guidé tes pas, du jeune boxeur talentueux suisse qui finit par tout lâcher, tout vendre pour partir faire le tour du monde à pied, en course à pied, alors que tout le monde lui disait que c'était impossible, le guide de haute montagne qui aujourd'hui permet aux autres de vivre justement des émotions au-delà de la moyenne et qui m'a permis, moi personnellement, d'en vivre. Et donc pour ça, j'ai une immense gratitude et reconnaissance envers toi. Est-ce que justement il y a un pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ce goût de l'aventure, cette envie aussi de partager, de transmission?
Oui, je crois que depuis mon plus jeune âge, je reviens toujours, et toute ma vie ça a été comme ça. J'ai l'impression que la richesse pour moi, c'est de vivre des émotions et des expériences. Et à ce rythme-là, je suis extrêmement riche. Et si je mets en place ou j'accepte des propositions aussi bizarres les unes que les autres, ou bien que je mets en place moi-même mes propres schémas de difficultés en montagne par mon métier ou par mes passions, parce que je vais aussi en montagne quand je ne suis pas guide. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas fait un travail de guide, on a fait un travail d'amitié. Donc, c'est toujours pareil. Je veux dire, La vie vaut la peine d'être vécue quand il y a des émotions, quand il y a des sentiments. Vous regardez le meilleur couple du monde qui a beaucoup d'amour quand ils se marient, qui construisent une belle maison, qui a un joli chien, qui a une jolie voiture, qui a un joli travail. Eh bien, il y a la moitié, malheureusement, de ces gens-là qui, un jour, la maison n'a plus aucune importance, le chien, on s'en fout. Et puis la voiture, on l'a vendue parce qu'on s'est séparés. Donc, quand il n'y a plus l'équilibre affectif dans un couple, vous pouvez avoir la richesse que vous voulez derrière, les gens sont tristes. Et finalement, si on enlève tout ça, la seule chose qui reste, c'est les émotions joyeuses qu'on a vécues. Alors, donnons-nous la peine de vivre le plus possible d'émotions joyeuses, quoi. Puis, tant mieux, on se fait avoir, et puis il y a une émotion un petit peu plus difficile qu'une autre. Mais l'idée générale, les émotions, les expériences de vie, on ne vous les reprend pas. Que vous soyez seul, célibataire, marié, veuf ou j'en passe, chacun a droit à ses émotions. Et moi, je cours après les émotions, les expériences, et j'adore ça, quoi.
Ça fait 16 ans du coup que tu es avec Isabelle, ta compagne, et on a l'impression que tu l'aimes toujours comme au premier jour. Est-ce que c'est ça le secret justement de votre couple et puis de l'amour de façon générale, c'est-à-dire partager des émotions fortes ensemble? Enfin, fortes ou de qualité en tout cas.
Ouais, je pense que ça en fait partie. On a aussi fait un chemin, évidemment, on s'est rencontrés quand on avait déjà un passé vécu, elle de son côté et moi du mien, donc c'est aussi plus facile d'essayer. On s'est posé la question de ne pas reproduire le même schéma de ce qu'on avait fait avant, ce qui n'était pas forcément des erreurs. Mais enfin, un jour, on a arrêté nos relations réciproques avant. On s'est dit, on va essayer de tout faire pour avoir tout le temps l'envie d'être avec l'autre. Et ça passe pas forcément par les grands dogmes judéo-chrétiens qu'on nous enseigne. Si Isabelle et moi, on s'entend bien, c'est parce qu'on a un chemin de tolérance, un chemin d'acceptation. Et puis aussi parce que tout simplement on vit de belles choses ensemble et puis on se sent très libre. Moi, je suis totalement libre de quitter Isabelle, lapsus significatif. Je me sens tout à fait quelque part au fond de moi libre de rester avec Isabelle comme je me sens libre de quitter Isabelle. Et elle, c'est exactement la même chose. Si on reste ensemble, c'est parce qu'on a envie d'avoir envie de rester ensemble. C'est pas parce qu'on se sent obligé par de la finance, par des acquis, par des bâtiments, par des contrats de mariage où j'en pense, on s'est marié, hein, mais parce qu'on avait envie de se marier. On se marier à Las Vegas, d'ailleurs.
ça me fait penser à ce que je vis aussi avec Constance, ma compagne, et qui est la première et la seule avec qui je me suis toujours senti libre. Tu vois, elle m'a toujours encouragé dans tous mes projets. Je te l'ai dit, j'ai peut-être une tendance un peu hyperactive, j'ai une forme de feu intérieur et de tourbillon qui me pousse à explorer un tas de choses, et ça peut être fatigant ou difficile à suivre pour d'autres. Et elle a jamais essayé de me mettre en cage, au contraire, elle a toujours été l'épaule sur laquelle je pouvais me reposer pour exprimer mon bonheur et puis aller découvrir le monde, aller explorer le monde. Et à l'inverse, j'espère en faire autant de son côté. Mais tu vois, il y a beaucoup de respect, beaucoup de discussions, beaucoup d'ouverture, de compréhension de l'autre, d'acceptation de l'autre, plutôt que d'essayer de le transformer dans une espèce de voie du milieu qui réunirait les deux. Au final, on a chacun nos personnalités, nos différences, et c'est ça aussi qui nous rend riches, et on est capable de les accepter l'un et l'autre.
Non, puis juste en petite confidence, elle n'est pas là, donc j'aimerais quand même dire que...
Mais elle va peut-être écouter le podcast.
Peut-être. Je dirais qu'Isabelle, elle est arrivée au bon moment dans ma vie où j'étais aussi très actif. Je crois que si on s'entend bien, David et moi, c'est, toi et moi, c'est un peu pour ça aussi. C'est qu'en fait, j'étais très très actif et je suis arrivé à un moment dans ma vie où je pense que j'avais besoin de ce qu'on appelle un peu le repos du guerrier. Et puis Isabelle symbolise exactement ça. C'est un puits de tendresse dans lequel je peux me reposer. J'ai le droit d'avoir des erreurs et je ne suis pas forcément critiqué pour. Je ne pense pas que je suis meilleur avec elle qu'avec qui que ce soit d'autre. Mais à la limite, elle arrive à composer avec mes erreurs et mes qualités. Moi, j'essaie de faire la même chose avec elle. Et c'est ce qui nous donne cette liberté d'avoir envie de rester ensemble parce qu'on sait qu'on arrive toujours à trouver un chemin. On n'est pas toujours d'accord, hein. Des fois, on s'engueule comme tout le monde, quoi. Ça fait partie du jeu. J'en sens pas la vie d'un couple. Mais je pense que cette espèce de tolérance dont je parlais avant que le monde m'a apporté, Isabelle, de son côté, en a pas mal aussi, mais surtout une acceptation des faiblesses de l'autre et pas forcément seulement des qualités, quoi.
Et tu es aussi papa. Est-ce que tu penses avoir réussi à transmettre ces valeurs et puis cette espèce de feu intérieur, cette passion pour la vie, pas forcément pour l'extrême, tu vois, pour faire des choses, partir en nature, en montagne, etc., c'est pas ça la question, mais plutôt pour vivre ses rêves, poursuivre ses passions et puis voilà, vibrer.
Moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille qui arrive à 38 ans, un garçon qui en a 35. Mon fils n'a pas d'enfant, il n'est pas forcément avec une femme, mais il vit très bien comme ça. Et ma fille m'a fait deux beaux petits-enfants, une petite fille qui arrive à 14 ans et un petit garçon qui arrive à 11 ans. Et j'ose espérer qu'à ma manière, bon, il faudrait qu'il soit là pour te le répondre, mais ils le feraient très volontiers s'ils étaient là. On a une relation affective qui est très très forte avec mes enfants, on se voit pas très souvent, régulièrement, mais pas forcément très souvent, et on a partagé d'innombrables choses, et j'ai réussi à leur apporter, je dirais, l'amour et le respect des choses simples. Donc ils sont très très souvent en nature, mais ils n'ont pas forcément pris ce côté guerrier, challenging, survie. Peut-être aussi qu'ils ont vu le prix à payer du rêve. Quand ils sont venus 19 fois aux quatre coins de la planète me rencontrer, on a loué des vélos, ils ont fait du camping, ils se sont fait voler leurs sacs. Enfin, il y a eu de l'agressivité, des checkpoints, des trucs comme ça, qui peut-être les ont presque traumatisés à l'époque de leur jeunesse, j'en sais rien. Les pays pauvres, on bouffe mal ou on a la diarrhée parce qu'on va aux toilettes, parce qu'on n'a pas digéré, surtout quand on arrive en avion, on n'a pas tellement le temps de s'habituer. Donc, ils ont vu tout ça et peut-être ça leur a pas vraiment fasciné. Ils ont vécu avec, ils ont un papa qui est complètement hors norme, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, et ça s'est très très bien vécu, parce qu'ils ont aussi eu une part de souffrance quand j'étais loin autant d'années, entre l'adolescence, entre 8 ans et 15 ans, je les ai pas beaucoup vus, à part deux fois par année, c'est pas beaucoup, heureusement j'avais la maman de mes enfants, on est resté en très bon terme, elle a assumé son rôle de maman, on en avait déjà discuté en amont, tout ça c'est un équilibre à mettre en place, c'est pas simplement je suis égoïste, je pars un lundi matin, c'est pas aussi simple que ça. Donc je dirais que le côté affectif s'est développé. Après, pendant ces années d'absence, ils ont manqué du papa pour mon fils en tant que copain de jeu, je dirais, parce que la maman s'est parmie avec un homme, donc il manquait peut-être un peu un homme dans la maison. Ma fille a peut-être un peu souffert affectivement de parole papa pour qu'il lui raconte des histoires le soir avant d'aller au lit. Mais voilà, ça s'est construit comme ça. Par contre, ils avaient aussi un avantage, c'est qu'ils savaient exactement où j'étais, ils savaient pourquoi j'étais parti, on courait pour récolter de l'argent pour d'autres enfants qui n'ont pas notre chance, donc ils avaient aussi un peu un côté de fierté. D'un côté, je manque de mon papa, mais grâce à ça, il y a d'autres enfants qui vont pouvoir vivre de belles choses. Pourquoi pas? Enfin, tout ça mis dans la même casserole. Le côté affectif s'est très très bien développé. J'ai un excellent contact avec mes enfants. Ils sont très souvent en nature. Ils ont le respect des valeurs et le respect des voisins. Et puis, je crois que ça suffit amplement. Ils me donnent l'impression et ils me le disent qu'ils vont bien dans leur vie, quoi. Et je crois que c'est déjà pas mal.
Et alors, t'es un petit peu une sorte de force de la nature, tu vois. Quand on a fait le Mont Blanc, je reprends cette histoire, mais il y avait moi et puis Jean-Baptiste qui est un Ironman, donc plutôt quand même très sportif. Et même si tu nous as fait le compliment extrême de nous dire qu'on était des avions de chasse, toi t'étais devant nous en train de monter comme un bouquetin avec une facilité déconcertante, alors que nous on avait juste les cuisses qui étaient en train de brûler, du mal à reprendre notre souffle, et puis l'impression d'avancer comme des tortues, quoi.
C'est la jeunesse.
c'est quand même incroyable la forme que t'as pour ton âge, quoi. T'as 68 ans, je crois, maintenant. Ouais. Et pour autant, t'as appris cette année que t'étais atteint de la maladie de Parkinson. Ça t'a fait quoi, justement, toi qui as toujours pu faire confiance à ton corps, qui en 50 ans a jamais été malade, a jamais, à part deux tendinites pendant tes 10 ans ouais. de course à pied, qui en plus, visiblement, se sont facilement réparées puisqu'elles t'ont pas empêché de continuer. Toi qui as jamais rien eu, qui a toujours pu faire confiance à ta machine hyper bien huilée, comment est-ce que tu vis ça?
De nouveau, je suis dans une période de doute et de tourment, c'est clair, parce que je pense qu'il y a un certain virage qui s'installe dans ma vie et je suis pas sûr que ça soit lié à l'âge, d'après ce qu'on m'a dit. Mais tout simplement, comme m'a dit le médecin, il faut arrêter de réfléchir pourquoi vous avez attrapé le diagnostic de la maladie de Parkinson. C'est tout simplement parce que c'est comme ça, voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai trouvé ça fantastique comme réponse, parce que c'est clair qu'à force de chercher des réponses, on va peut-être trouver mais la belle affaire, même si on trouvait l'origine. Ça changerait quoi? Je l'ai. On sait que c'est une saloperie qui est pas si facile à gérer au quotidien. Mais je dirais que c'est surtout un tournant dans la mesure où j'attrape une maladie alors que j'ai jamais rien eu. Donc je suis un privilégié et je suis plein de gratitude là-dessus. Je suis très reconnaissant. Donc je me dis qu'à 68 ans, c'est mieux d'attraper une saloperie à 68 ans qu'à 30 ans, quoi. Donc déjà là, j'essaye de voir tout de suite. Dans ma vie, j'essaye souvent de voir le côté positif, même sur les choses négatives. C'est ce qui m'a souvent permis de réussir. Parce que si on cherche le bon côté des choses, on en trouve très souvent l'air de rien. Donc j'essaye de trouver, que je me dis, c'est peut-être pour un temps de réflexion, c'est peut-être pour me faire comprendre qu'il faut bientôt que j'arrête mon métier de guide. J'avais décidé d'aller jusqu'à mes 70 ans, mes 70 ans, donc c'est deux ans près, si je devais peut-être, avec les mois qui viennent, arrêter, admettons, pourquoi pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu frustrant, où je suis encore un petit peu dans, je n'ai pas dit la colère, mais ouais, peut-être appelons ça la colère. Je n'ai pas encore tout accepté, pas j'accuse le coup, évidemment, ça me fait... un gros choc, parce que là, je bouffe des pastilles du matin au soir, alors que pendant 50 ans, quand je mangeais 5 pastilles par année, j'avais fait le tour de l'année des médicaments. Donc, ça me change un petit peu la donne. Mais le problème, il est plutôt, quand on attrape un problème, souvent, il se greffe d'autres problèmes. C'est bien connu. Ben là, je suis en train de vérifier ça, parce qu'en fait, on a commencé le traitement de Parkinson tout au début de l'année, au mois de janvier, là. Et puis en fait, il y a des effets secondaires qui sont assez violents de ce genre de médicaments qui sont quand même forts, qui sont indispensables pour stabiliser le Parkinson qui de toute façon tôt ou tard va dégénérer. D'un cas à l'autre, ça change, ça peut être en une année, en 5 ans, 10 ans, en 20 ans, 30 ans. C'est pas mortel par contre, c'est les conséquences du Parkinson qui le seront un jour. Mais enfin, toujours est-il que le médicament que j'ai commencé, 5 jours après, je commençais à avoir quelques problèmes au niveau de la respiration, du cœur et autres. Et en fait, il semblerait que j'ai réagi négativement à des effets indésirables, qui fait que cette année, à fin mars, j'étais avec mes clients sur un Chamonix de Zermatt en ski de randonnée à 3200 mètres, et ça n'allait pas du tout au niveau de mes poumons, de ma cage thoracique. Et en fait, je me suis fait évacuer en urgence en hélicoptère à l'hôpital à Sion en Valais, où je suis resté 5 jours, et en fait, j'ai fait un infarctus extrêmement inflammé et 2 petits AVC dans le cerveau. Et il semblerait que c'est les effets secondaires indésirables du médicament contre Parkinson. Donc comme si c'était pas suffisant d'attraper cette saloperie, en plus ça m'a bousillé une partie du cœur. Et quand on connaît un peu ma trajectoire dont on vient de discuter, le cardiaque c'était ma qualité numéro 1. Donc ça m'atteint juste exactement où j'étais le plus en forme. Donc c'est clair que j'accuse le coup, mais néanmoins je suis déjà en train de me mettre en place une philosophie qui est propre, parce que j'essaye toujours de rebondir et de voir les bonnes choses. Je me dis, j'ai réussi toute ma vie à faire tellement de belles choses extraordinaires quand j'étais en pleine santé, je ferai des choses belles et extraordinaires quand je serai malade.
Peut-être que tu réagis mal aux effets secondaires des médicaments parce que justement tu t'es pas assez entraîné au cours de ta vie à en manger.
Non, c'est possible.
C'est évidemment une petite blague. Ce qui m'a marqué, moi, quand je t'ai eu au téléphone et que tu m'as raconté justement les soucis de santé qui t'arrivaient, c'est que malgré tout, tu vois, très loin de t'apitoyer sur ton sort, mais non sans minimiser l'impact que ça a. Tu vois, on voit que t'es connecté quand même à tes émotions, tu partages ta colère, ce que tu ressens, et donc t'es pas en train de couper justement cette connexion au cœur. Mais pour autant, elle t'empêche pas de garder la foi en l'avenir, ce regard pétillant, cette envie de faire plein de choses. Et donc je t'avais au téléphone, tu m'as raconté ça, puis tu me disais oui, enfin bon, donc je recommence quand même à aller marcher et tout, j'ai fait 500 mètres de dénivelé hier, là j'ai une petite course avec des gens en montagne, etc. Enfin, t'es très vite quand même, je trouve, t'as rebondi de ce diagnostic et puis des complications qui l'ont suivi, qui étaient quand même, enfin tu vois, n'importe qui, il fait un infarctus, un AVC alors qu'il vient d'apprendre qu'il a Parkinson, tout ça en 3 mois, bon, voilà quoi. Et toi, paf, t'étais déjà reparti dehors, regarde, ce matin on a fait de l'escalade, t'es toujours toi quoi, je veux dire, ça a pas du tout remis en cause la personne que t'es, justement cette fureur de vivre. J'ai pas du tout l'impression que ça t'est amoindri à aucun égard, en fait.
Bon, ça se voit pas comme ça sur l'extérieur, c'est une petite journée d'escalade, mais évidemment je suis amoindri, et comme m'a dit le médecin, et je pense qu'il faut quand même regarder la réalité en face, c'est pas moi je suis plus fort que les autres et puis je fais comme si j'avais rien puis je continue peut-être baisser dans le mur. Non, c'est pas ça, c'est de nouveau un travail d'acceptation, donc je suis seulement sur le début de ce chemin, j'ai pas tout accepté, je dis bien, je suis pas tout à fait en équilibre ces dernières semaines. Mais quelque part, il faut être réaliste. J'ai 68 ans, c'est mieux que de mourir à 20 ans. Et puis, s'il faut faire avec quelques inconvénients, pourquoi pas. Mais ça n'empêche pas de tout à coup, il ne faut pas prendre ça comme excuse pour ne plus rien faire. Je veux dire, je vais continuer à vivre à 200 à l'heure, même si le 200 à l'heure, ça ne sera plus qu'à 100 à l'heure, quoi. Non, je veux dire, je crois qu'il faut y aller. Pour le moment, je me bataille avec le cardiaque. Alors, c'est assez paradoxal, parce que sur le plan médical, le côté cardiologique, c'est 3 mois sans faire aucun effort. Puis après 3 mois de remise en forme, dont le premier mois, c'est marcher 20 minutes autour de la maison et tondre la pelouse le samedi après-midi. C'est clair que ça dépend où on met le curseur. Donc, c'est clair que ça ne me correspond pas. Donc, je devrais, entre guillemets, presque ne rien faire du tout pour guérir du problème cardiaque. Et puis, pour la maladie de Parkinson, il faut rester le plus possible en mouvement. Donc plus je reste actif et plus je reste en mouvement, moins je vais dégénérer rapidement. Donc je suis un peu entre les deux. Donc je fais pas, je me repose, j'y vais un petit peu à mon intuition, à mon feeling. Pour le moment, ça a l'air d'aller, j'avance gentiment, je peux pas tout faire, c'est clair. Ça n'a plus rien à voir avec avant, comme m'avait dit le corps médical à l'hôpital. Monsieur Rutli, il faut apprendre qu'il y avait un avant et il y aura un après. Mais voilà, comme j'ai dit, ben, si l'avant j'ai fait des choses extraordinaires, je ferai de belles choses après.
Après, bon, je suis pas du tout médecin, donc je me garderais bien de donner des conseils sur le sujet. Mais comme je le disais, tu vois, certes, peut-être que pour ton cœur, il serait préférable de rien faire. Mais d'un autre côté, quand on voit les dommages que ça fait sur la fonte musculaire et l'importance justement du maintien de la masse musculaire quand on vieillit pour justement garder son autonomie et puis rester actif, et le fait de rester actif permet de rester vivant, parce qu'on sait par exemple que suite à une fracture de hanche, après 60 ans ou 70 ans, c'est un diagnostic d'une espérance de vie à 6 mois ou 1 an, parce qu'en fait, on n'arrive pas à revenir, on n'arrive pas à reconstruire sa masse musculaire. Donc voilà, bon, on peut toujours se poser des questions sur le sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, t'es quand même très très loin de simplement tourner la pelouse de ton jardin. Et c'est vrai que peut-être que ce matin, pour toi, c'était une petite voie d'escalade. Pour moi, c'était déjà beaucoup plus impressionnant, mais je parlais aussi de toutes les balades là que tu as fait récemment en montagne, où tu enchaînes quand même des dénivelés pour certaines personnes, pour certains trailers déjà, seraient de jolis entraînements, quoi.
Ça dépend toujours où on met le curseur. C'est clair, évidemment, que je sors d'un milieu très... où j'ai fait de grandes choses, donc évidemment l'échelle n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Je prenais l'exemple, on entend ça très régulièrement, des très grands sportifs d'élite qui se cassent une jambe. Monsieur tout le monde, malgré tout le respect que je dois, c'est de viser sur 8 mois, 12 mois de guérison. Et puis un grand sportif, après 4 mois, il est de nouveau sur ses skis en Coupe du Monde. C'est ça que je veux dire. Je crois que c'est pas qu'on est plus fort que les autres, mais si l'organisme, il s'habitue depuis 50 ans à être à un certain niveau. Si pour moi faire 1000 mètres de dénivelé, je comprends très bien que pour beaucoup de gens, faire 500 mètres, c'est beaucoup plus dur. C'est pas qu'on est plus fort, c'est notre style de vie, on est habitué comme ça, quoi.
Bien sûr, en réalité, c'est le principe de l'hormèse. Tu fais subir, entre guillemets, à ton corps un stress, et pourvu qu'il ait suffisamment de temps pour récupérer, il se renforce. Et puis après, évidemment, sa baseline est beaucoup plus haute, et donc c'est clairement ton cas.
Mais il faut pas rêver, il faut regarder la réalité en face. Il faut pas penser que je suis plus fort que quelqu'un d'autre. Si j'ai Parkinson et maintenant le cardiaque, on peut espérer qu'il revient à 80%, c'est ce qu'on m'a laissé entendre, et je pense que c'est juste. 80% sera amplement suffisant pour poursuivre mes rêves de vie. Et puis Parkinson, il faudra bien tenir compte avec. Un jour, peut-être que si on refait un podcast dans X mois ou années, je serai peut-être en train de trembler de partout, et puis il faudra bien l'accepter. Qu'est-ce qu'on veut?
Je te mettrai un pied pour ton micro, parce que il faudra changer de table, par contre.
Inversement, de tomber malade à 68 ans, c'est un privilège. C'est mieux. Ça veut dire que je suis toujours vivant, quoi. Puis plus on va en années, si la mort ne me rattrape pas avant, ben, si je renverse la tasse de café dans 20 ans, ça sera mieux que de mourir dans 5 ans.
Et c'est quoi pour toi le sens de la vie? Ou si tu préfères, c'est quoi pour toi réussir sa vie?
C'est pouvoir regarder en arrière et ne rien regretter.
Et du coup, selon cette définition, tu penses l'avoir réussi?
Pour le moment, oui. Je pense que quand je me dirais j'ai plus assez d'émotions, j'ai plus de plaisir, j'arrive plus rien à partager avec personne, j'espère partir avant, quoi. Mais je pense, oui, que c'est peut-être une autosatisfaction, je sais pas, mais je pense que c'est extraordinaire pouvoir s'asseoir sur une chaise, regarder la vie derrière soi, puis se dire est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça ou comme ça ou comme ça. Et je connais des milliers de gens qui ne regrettent pas du tout leur vie passée, et je les félicite, alors que j'entends aussi beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, ou si j'avais su, j'aurais fait ça autrement. » Et parfois, c'est un peu triste, ouais, je sais pas, le sens de la vie, on a un passage à faire de la naissance à la mort ici, d'avoir réussi à ne rien regretter jusqu'à aujourd'hui, et puis de me dire j'ai deux enfants qui sont en bonne santé, puis qui vivent bien, et puis deux petits-enfants qui ont plaisir de venir avec leur papy, c'est déjà pas mal. Oui.
Bah, c'est même merveilleux.
Voilà. Je sais pas si c'est tout, mais inversement, j'arrive aussi à me dire que j'aime la vie, pour le moment j'ai beaucoup plus de plaisir que de malheur, mais énormément plus. Je me dis que j'aimerais bien que ça continue un peu. Mais inversement, je me dis que si je dois mourir demain, il ne faut pas être trop triste, quoi. Il faut plutôt dire que c'est extraordinaire la chance qu'il a eue, la vie qu'il a menée. Ben, faisons la fête, quoi. Il ne faut pas pleurer trop longtemps, quoi. Il faut aussi accepter qu'on n'est qu'un passage. Et cette histoire de Parkinson ou d'un tournant de la vie et tout me donne aussi le temps de réflexion, de peut-être gentiment mais sûrement à me préparer qu'un jour il faudra bien partir, quoi. Et j'essaye de m'y préparer. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais je vais dans le sens de me dire mais c'est normal, c'est pas grave si je dois partir. Ben, il faut partir, quoi.
Comment tu t'y prépares? Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça?
Bon, continuant à être honnête, respectueux, en vivant de belles émotions et tout, je me dis, bah, si la mort arrive, bah, c'est que ça doit arriver un jour. Voilà, ouais, ça me fait pas trop peur de mourir. Après, c'est comme tout le monde, on est tous les terriens la même chose, on n'a peut-être pas toujours peur vraiment de mourir, et moi non plus. Ça nous fait simplement un peu peur de devoir trop souffrir et de souffrance avant de mourir. C'est plutôt ça qui fait peur à tout le monde, je crois. Je suis vachement qu'un humain, et ben, je suis la même chose que tous les autres. Alors, ben, tant mieux si j'ai pas besoin de souffrir trop longtemps, mais si vraiment mon chemin pour aller à la mort est une part de souffrance, j'espère encore et toujours pouvoir accepter, dire, bon, ben ma foi, ouais, je souffre, j'espère que ça va bientôt s'arrêter, mais pas forcément embêter tous mes voisins. Mais est-ce qu'il est nécessaire de me torturer l'esprit avec ça? Vivons intensément chaque moment et puis essayons de trouver de belles choses. Et il y en a tellement que bon, continue comme ça.
Est-ce qu'il y a deux, trois rituels ou habitudes que tu pratiques tous les jours ou régulièrement et qui justement te permettent de rester en bonne santé, de rester bien dans ton corps, bien dans ta tête?
Ben, j'essaye toujours de dormir peut-être plus 9 à 10 heures parce que je cours pas 50 km par jour, mais je fais facilement mes 7-8 heures de sommeil. Là aussi, un peu perturbé depuis que j'ai Parkinson, parce que la nuit, ça me réveille quand je vais aux toilettes, et puis après, j'ai de la peine à m'endormir, parce que j'ai des tremblements. Donc, le sommeil est un petit peu affecté. Enfin, tout ça montre que c'est un tournant. Il y a l'avant, puis il y a l'après. Je serai qu'à 80% ou à 60%, je ne sais pas encore maintenant. Mais les rituels, je dirais que si j'en avais, j'essaye toujours mes trois principes de base. J'essaye de faire mes nuits. J'aime pas du tout avoir deux, trois soirs de suite avec très peu de sommeil. Ça m'arrive rarement. Tout à coup, si c'est une nuit, on s'en fout, ça passe très bien. Mais dès la deuxième nuit, si je me couche à minuit ou 2 heures du matin, le lendemain, je me sens vaseux et j'aime pas être dans cet état-là. Donc, j'essaye de conserver un sommeil réparateur. Je bois toujours très régulièrement, presque plus de coca, mais bon, je bois beaucoup régulièrement et je fais tous les matins. Disons 7 à 8 minutes de stretching en 5 et 10 minutes, mais ça je le fais tous les jours, c'est intégré à ma vie. Je sens vraiment que si je le fais pas, il me manque quelque chose. Et je pense de nouveau le sommeil, l'hydratation et le stretching, ben, peut-être ça aide un petit peu à conserver quelque chose. Et puis évidemment, comme je suis toujours encore guide de montagne et puis que je fais beaucoup d'activités, ben, j'ai tout le reste qui va avec, mais pas d'une manière frénétique. Je cherche en tout cas pas à montrer qu'à 68 ans, je suis aussi fort que quelqu'un de 40 ans. Merci pour les compliments du Mont Blanc. Il faut aussi savoir que je suis extrêmement acclimaté à l'altitude et puis que je suis très souvent en haute altitude, ce qui donne un immense avantage à quel âge que ce soit. C'est clair, je suis tout le temps dans le mouvement. Je suis en mouvement, en fait, 12 mois sur 12, quoi. Pas d'une manière frénétique. Si je loupe un entraînement ou une course, je m'en fous, c'est le dernier de mes soucis. Mais je suis quand même toujours plus ou moins actif. Regarde la journée d'aujourd'hui, qui est une journée pépère et tranquille. On a quand même fait de l'escalade tout le matin. Donc finalement, on a fait quelque chose, mais je n'ai pas l'impression qu'on a été frénétiquement faire du sport. On s'est juste fait plaisir, mais avec le plaisir, on a fait de l'activité physique. Donc un esprit sain dans un corps sain, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de vivre comme il faut chaque chose intensément, puis de trouver le bon côté des choses, quoi.
T'aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 prochains jours, quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou une seule fois et qui leur permettrait justement de progresser sur leur propre chemin de développement?
De s'arrêter puis de leur conjoint combien ils les aiment et combien ils ont plaisir d'être avec eux. De pas oublier de boire, de bien dormir, et puis pourquoi pas vous mettez-vous à faire quelques mouvements pour votre fond du dos qui certainement a quelques problèmes comme un peu chez tout le monde.
Et alors, il y a quelque chose qui te caractérise lorsqu'on part en montagne avec toi, c'est que évidemment il y a des petites pauses, des petits moments pendant l'ascension où on s'arrête pour reprendre un petit peu notre souffle et puis laisser aux muscles le temps de se décongestionner. Et tu profites généralement de ces moments-là pour nous gratifié de ton petit répertoire de blagues un petit peu grivoises, tu en as tout un tas, et donc on aime regarder ce petit regard pétillant et un petit peu coquin qui te caractérise si bien. Est-ce que tu voudrais nous en offrir une?
Tiens, bonne question. Oui, il y en a une. Combien y a-t-il d'arbres dans le slip d'un homme?
Dis-moi.
Combien y a-t-il d'arbres dans le slip d'un homme? Il y en a 4. Écoutez bien. Il y a un petit être plein de charme, quand il a fait son boulot, est un peuplier.
Et justement, si on a envie de t'accompagner en montagne, comment est-ce qu'on fait? Donc, parce que t'es guide, donc tu travailles notamment pour Explora Project, qui est une espèce de tour opérateur de voyage d'aventure, d'expédition, d'aventure en montagne ou autre. Et donc, tu fais notamment le circuit de mon premier 4000. mais tu as aussi les premiers glaciers en hiver, tu me disais. Et puis, on peut te contacter directement via ton site. Tu peux
En fait, toute ma vie, on m'a toujours contacté de bouche à oreille, et puis un simple numéro de téléphone. Et je pense que si vous mettez mon nom sur un moteur de recherche comme Google, même 20 ans après le tour du monde, il y a encore d'innombrables références, vous allez réussir à trouver très facilement l'adresse de mon site, qui ne vaut pas grand-chose, mais il y a mes contacts et puis mon téléphone. Donc, chez moi, tout se passe de bouche à oreille et par téléphone, tout mon travail est comme ça. Mais j'aurais tendance à dire que j'arrive quand même en fin de carrière au niveau professionnel de guide. Et puis que pour le moment, j'ai la chance et le privilège d'être assez bien sollicité. Donc je suis très très bien rempli. Si quelqu'un s'intéresse à partager quelque aventure, que ce soit en montagne avec moi ou expédition ou l'autre, je suis toujours partant. Mais sans vouloir jouer au pénible, je suis quand même extrêmement occupé et mon agenda est très bien rempli, quoi. Entre ça, les conférences, les interventions d'entreprise... C'est vrai que malheureusement, je suis arrivé au stade où bien souvent, je suis obligé de dire « je m'excuse, j'ai plus de date ». Voilà, j'aimerais quand même le dire parce que j'ai pas envie d'être mal à l'aise quand il y a des gens sympathiques au téléphone qui aimeraient bien m'avoir comme guide. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas trouvable. On a bien trouvé une journée aujourd'hui, puis cool et tranquille.
Et donc, les chefs d'entreprise peuvent aussi te contacter pour que tu organises des conférences sur le courage d'oser ?
Alors, j'ai eu le privilège d'être sollicité plusieurs fois, peut-être 80 ou 100 fois dans des exposés d'entreprise, dans des journées de formation continue, où souvent il y a 3 ou 4 intervenants dans la journée. Moi, j'interviens, en général, c'est 45 minutes et 15 minutes questions-réponses. C'est en général le timing qu'ont les grosses boîtes. Des fois, c'est plus où je peux présenter le film qui fait 1h18, où j'anime des soirées annuelles d'entreprise avec le film plutôt. Mais les team building, les workshops, les journées de travail, c'est en général sur un thème qui m'est très cher, c'est « avoir le courage d'oser ». Prendre des décisions et payer le prix de ses choix. Et je développe là-dessus. Et j'ai l'immense privilège de ne pas être un professeur. Je suis même pas obligé de dire la vérité. Je donne ma vérité. Puis chacun fait ce qu'il veut. Mais honnêtement, ça passe bien. J'ai fait beaucoup de grosses boîtes. Que ce soit Hermès, Procter & Gamble, Dell Computer, Nike et autres. Oui, et en général, ça passe bien. Oui, je suis un intervenant d'entreprise.
Et les films, on peut les retrouver sur YouTube ou ils sont seulement disponibles en DVD
Alors, pour le moment, ils sont disponibles en DVD, mais il est question, j'ai un petit jeune, parce que moi, l'informatique, c'est pas mon monde, je fais 10 minutes derrière un ordinateur et je m'emmerde. Donc, je préfère sortir et regarder les oiseaux. Et puis, mais il y a un petit jeune qui s'y colle, donc normalement, d'ici quelques mois, il devrait y avoir mes films en ligne, payant pour une petite modique somme symbolique. C'est pas tellement pour faire de l'argent, mais c'est plutôt pour faire comprendre aux gens que s'ils veulent regarder le film du Tour du Monde en ligne, c'est soit on le regarde comme il faut, puis on a payé un tout petit peu quelque chose. Parce que j'ai pas envie, c'est qu'ils soient en distribution libre et que les gens zappent sur le film Mon Tour du Monde, ils regardent 10 minutes, puis après ils vont au cinéma, puis ils regardent 2 semaines plus tard, ils regardent 10 minutes. Non, on s'asseye, on regarde, on fait un tour du monde en course à pied, en moto remorque, et puis ou bien on fait comme il faut, ou on fait pas, quoi.
Bon bah écoute, quand il sera sorti, je mettrai de toute façon les liens sur le site, et puis on le partagera sur Instagram, etc.
Pour c'est
que
gentil.
Tous nos auditeurs puissent aller découvrir un petit peu plus.
Mais enfin, tout ça pour dire que ceux qui veulent vraiment me trouver, ils finissent par trouver mon téléphone assez facilement, quoi.
Oui, surtout par mon intermède.
Par exemple.
écoute Serge, je te remercie pour cette belle conversation, pour ce témoignage plein d'authenticité. J'ai l'habitude de faire à la fin de ces podcasts un petit check-out. L'idée, c'est simplement que tu me dises avec quelle énergie est-ce que tu termines cette conversation. Est-ce que tu as pris du plaisir ?
Ah ben oui, moi j'aime les relations humaines et j'aime partager, j'aime converser, donc c'était que du bonheur. Merci beaucoup.
Eh ben écoute, comme tu t'en doutes, c'était un bonheur partagé. Ça fait en plus de longs mois que j'ai envie d'enregistrer cet épisode. Et je voulais attendre de pouvoir le faire en physique parce que, comme tu me l'avais confié, t'es pas un grand fan de l'ordinateur et des trucs à distance. Donc, j'ai dû attendre de déménager en Haute-Savoie pour réussir à synchroniser nos agendas et venir te voir. Et je ne regrette évidemment pas. Donc, un grand, grand merci, Serge, d'avoir pu témoigner de cette vie incroyable et puis offrir ce regard pétillant et ce sourire plein de bonté et de générosité qui m'inspire tant.
Merci beaucoup de ce temps partagé. Prenez soin de vous et bonne santé.
Début juillet, j'ai triomphé de la Spartan Ultra de Morzine, l'une des courses les plus dures au monde, avec 51 km, 3500 mètres de dénivelé positif et 60 obstacles. Pourtant, il y a 8 mois, courir 10 km me semblait déjà être un exploit. Comment ai-je réussi ce défi ? Avec quel mindset, quels entraînements et quels hacks ? Qu'est-ce que la douleur et le dépassement m'apportent dans mon quotidien ? Je débriefe tout ça avec mon ami JB dans un épisode spécial que tu peux écouter dans ma newsletter Substack, dont le lien est en description. À bientôt !